ça fonctionne. Ou ça va fonctionner. Bien. Donc, nous allons commencer notre séance, donc ouvrir ce colloque. Je vais vous présenter donc un propos en guise d'introduction à ce colloque qui va, je pense, durer à peu près un quart d'heure. En tout cas, je vais m'efforcer à ce qu'il ne dépasse pas trop le quart d'heure. Et ensuite, je dirai quelques mots de Pierre Brulé et qui présentera sa conférence. Donc, j'ai repris le titre de notre colloque, Pratique religieuse, mémoire et identité dans le monde gréco-romain. Et comme souvent, lorsqu'on réunit dans le titre d'un colloque de grandes notions générales, il faut tenter de les tenir ensemble et de montrer ce que leur combinaison apporte de spécifique à l'approche que l'on souhaite mettre en œuvre. Le titre donc retenu pour ce colloque, le titre retenu pour ce colloque montre que nous avons choisi de mettre en avant les pratiques religieuses dans une perspective d'histoire sociale et culturelle qui prennent en compte des processus de construction mémorielle et identitaire. La démarche s'inscrit dans la continuité de recherches menées au sein de notre équipe ERMA, mais aussi dans le sillage de travaux qui ont renouvelé dans les dernières décennies l'étude des liens du fait religieux avec le social et les conduites de vie. J'évoquerai en particulier le rôle joué dans l'évolution des recherches par les approches cognitives et anthropologiques qui ont conduit, autour de l'idée de dynamique rituelle, à faire valoir la notion d'expérience religieuse et à mettre l'accent sur les processus de communication qui sont à l'œuvre dans des pratiques rituelles aux dimensions symboliques. Plusieurs études récentes se sont organisées autour de cette notion d'expérience religieuse en lien avec la mémoire ou l'espace des sanctuaires. Oui, j'aurais peut-être dû. Et ça marche avec ça ? Oui. On verra. D'accord. Et c'est cette même notion d'expérience que l'on retrouve aux côtés, entre autres, d'un concept comme celui de religious agency, comme disent les anglo-saxons, donc une notion qu'on retrouve parmi les axes qui structurent un projet développé au centre. C'est pas ça, si.
C'est à droite, peut-être.
Voilà. D'un projet développé au centre Max Weber à Erfurt sur la religion de l'Empire romain et intitulé, comme vous le voyez ici, donc Live Ancient Religion. Nous sommes dans un domaine, celui des religions antiques, où ce sont des croyances, des expériences, une multitude de pratiques qui organisent au niveau individuel ou collectif la communication homme-Dieu, bien qu'il soit d'ailleurs possible de défendre l'idée que le rite puisse être considéré davantage comme facteur d'union à l'intérieur d'un groupe que comme trait d'union justement entre hommes et dieux. C'est que la religion, comme cadre éthique, normatif, déterminant l'action des individus et des communautés, a une fonction d'intégration, de socialisation. Et à ce titre, elle constitue un cadre propice à la transmission de valeurs, de référents et de comportements. Il y a en tout cas chez les anciens un lien très étroit entre les pratiques religieuses et certaines valeurs jugées essentielles à l'intégrité des communautés, à la préservation aussi d'un certain ordre social. On comprend dès lors que les liens du fait religieux avec le social et les conduites de vie constituent, dans les mondes antiques comme pour d'autres périodes de l'histoire, un thème privilégié pour une approche culturelle où se croisent les thèmes de la mémoire et de l'identité. Que le matériau religieux envisagé sous l'angle des pratiques puisse être considéré comme un lieu privilégié du travail de la mémoire, c'est ce que soulignent par exemple les auteurs d'un ouvrage récent, en faisant remarquer que, je les cite, « la religion relève fondamentalement du champ de la tradition, ou plus exactement des traditions, et de la mémoire ou des mémoires ». Les liens structurels qui existent entre mémoire et sacré ont en tout cas particulièrement retenu l'attention dans des approches qui ont fait de la mémoire un élément central du processus identitaire, en phase avec des travaux comme ceux de Jan Assmann sur la mémoire culturelle. On a là une thématique qui a suscité dans la dernière décennie plusieurs ouvrages collectifs. Du coup, je ne vais pas les détailler, donc vous les avez là sous les yeux. Ce sont quelques exemples donc, que j'ai choisis, auxquels j'ajouterai les actes que voici donc, d'une rencontre scientifique qui avait été publiée sous la direction de Marco Galli, qui s'est intéressé aux formes de la mémoire religieuse telles qu'elles sont façonnées par les relations entre Grecs et Romains, entre élite locale et pouvoir impérial dans l'espace des sanctuaires. De telles études font valoir l'importance de processus de remémoration qui permettent aussi d'analyser des tensions entre changement et continuité et insistent à juste titre, ces études, sur le travail de mémoire à l'œuvre dans la mise en place et la célébration de rituels dont l'agencement peut refléter ou conforter un ordre social. Les phénomènes religieux trouvent ainsi leur place dans une histoire de la mémoire où il s'agit d'analyser la signification qu'un présent donné attribue au passé. C'est dans cette optique qu'il s'agira pour notre colloque, dans un cadre élargi au monde gréco-romain et sur le temps long, de scruter les efforts de mémoire dont nos sources, dans leur diversité, tant littéraire qu'épigraphique, papyrologique ou archéologique, dont nos sources donc témoignent dans la sphère des pratiques religieuses en lien avec la construction des identités. Pour lancer dans cette introduction quelques axes de réflexion, j'ai pensé partir d'un exemple épigraphique. Cet exemple, c'est la très longue inscription datée de 104 après Jésus-Christ, donc de l'époque de Trajan, très longue inscription qui rapporte en détail la fondation d'un certain Caius Vibius Salutaris, chevalier romain installé à Éphèse, en faveur du peuple et d'Artémis. Entre autres libéralités, ce personnage a consacré 29 statues, pas moins de 29 statues, qui devront être portées en procession lors de divers événements publics et religieux au cours de l'année civile éphésienne. Il s'agit d'une procession circulaire qui associe dans un ordre alterné des statues de la déesse, des représentations du pouvoir impérial et des institutions personnifiées à la fois romaines, le Sénat, l'ordre équestre, le peuple romain lui-même, et éphésiennes, la boulée, la gérousie, le démos, les tribus, les phébies. Voilà. On a là, c'est ce que je voudrais retenir, à travers ce rituel, une réinterprétation romanisante des institutions civiques, mais qui n'est pas pour autant contradictoire avec l'affirmation d'une identité civique traditionnelle, puisque le passé mythique et historique d'Éphèse, alors je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on le voit dans l'énumération des statues, donc on a le passé mythique qui est évoqué, le passé historique, il doit être question de Lysimaque, je crois, et même des éléments de la géographie de la cité, puisque le mont Pion, dont il est question dans la deuxième colonne, est une des montagnes du site d'Éphèse. Donc tous ces éléments sont aussi convoqués lors du rituel. Voilà donc un exemple qui me paraissait révélateur de la façon dont le travail de la mémoire et ses enjeux identitaires dans la sphère religieuse sont liés à la fois à une expérience spatiale, répondent aussi à des stratégies individuelles ou collectives et suscitent une dynamique porteuse d'évolution ou de transfert. Et je voudrais donc reprendre brièvement ces grands aspects qui ont guidé, vous le constaterez, vous l'avez constaté aussi, le choix des thématiques selon lesquelles s'organisent les sessions de notre colloque. Alors d'abord, l'expérience spatiale du religieux. L'espace peut être considéré comme une composante au fond multidimensionnelle de la société qui se prête à une analyse des pratiques et des identités individuelles ou collectives telles qu'elles se manifestent en un temps donné, à un moment historique et dans une aire géographique donnée. Dans le monde grec comme à Rome, on peut souligner ainsi l'ancrage spatial des mémoires individuelles et collectives, tout particulièrement en contexte religieux, donc dans le rapport de l'espace au sacré et au divin. On sait par exemple que la construction d'une mémoire familiale passe par des pratiques religieuses qui se déploient ou qui peuvent se déployer dans l'espace domestique et que la piété est partie intégrante de l'identité familiale. Comme le résume un personnage d'un dialogue de Platon, de l'Euthyphron de Platon, savoir dire et faire ce qui est agréable aux dieux, soit en priant, soit en sacrifiant, c'est là ce qui est pieux. Le grec dit « osion », donc exactement ce qu'il est permis de faire dans le domaine du sacré. C'est cette même place centrale des rites, à l'intersection entre vie privée et société, qu'exprime l'image reprise sur le programme du colloque d'un sacrifice familial sur une plaque votive en bois peint qui provient d'un lieu qui s'appelle Pitsa dans la région de Corinthe et qu'on date des environs de 540 avant Jésus-Christ. Alors même si l'on a affaire à un discours visuel qui relève par-delà ses composantes réalistes, par-delà ses composantes réalistes une conception idéale du rite, la scène montre que le sacrifice soude le groupe familial associé dans son entier autour d'un culte commun ancré dans un espace spécifique. Et s'agissant du travail de la mémoire et de son ancrage dans l'espace, je ne peux m'empêcher d'évoquer Pausanias, qui est un écrivain qui m'est cher, parmi d'autres, mais Pausanias qui fait souvent, très souvent, apparaître le lien que les pratiques religieuses entretiennent avec l'organisation de l'espace pour exprimer justement une identité civique en particulier. Si l'on prend un exemple, celui du rituel éléen à Olympie, rituel du sacrifice mensuel organisé sur les autels du sanctuaire d'Olympie, l'énumération que propose Pausanias révèle, il le précise lui-même, que l'ordre des sacrifices n'est pas l'ordre topographique et ne correspond pas non plus à l'ordre chronologique des fondations. C'est un itinéraire qui est établi en fonction de l'itinéraire suivi par les prêtres des lices chargés des sacrifices. Et donc, là où on s'attendrait peut-être à voir souligné la dimension panhellénique des rituels, eh bien, les pratiques religieuses, telles que les reprend Pausanias, semblent donc surtout destinées à sceller une identité héléenne ou panhéléenne, ce qui s'accorde d'ailleurs avec la fréquence des références à la cité d'Élis dans la mémoire politique du sanctuaire. L'activation de la mémoire dans le domaine des pratiques religieuses a donc à voir aussi avec des stratégies qui vise à exprimer des identités individuelles et collectives. À l'échelle des cités, une place particulière peut être donnée au rôle que les membres de grandes familles locales jouent dans l'organisation et la préservation de pratiques religieuses, en lien, encore une fois, avec le souci de préserver un ordre social. La documentation, de fait, permet de faire ressortir le lien étroit entre commémoration des rituels et éloge des bienfaiteurs de la cité. Les notions de prestige social et d'honneur attachées à l'exercice des fonctions religieuses offraient évidemment un champ favorable aux besoins d'ostentation, de concurrence, et le rôle joué par les aristocraties locales dans le domaine des cultes de la cité pouvait donc apparaître comme l'une des composantes essentielles de la mémoire civique en lien avec des stratégies d'affirmation d'un prestige social. J'aurais pu citer l'exemple de Sparte, mais pour ne pas trop empiéter, je ne m'étendrai pas sur cet exemple. Il apparaît en tout cas possible de concevoir les rituels comme des constructions socio-culturelles complexes qui sont constamment mises sous tension. Et cela m'amène à un dernier aspect qui concerne la dynamique religieuse que suscite la construction mémorielle. Ça fait du bien que ça s'arrête. Le travail de mémoire est facteur d'évolution et de transfert des pratiques qu'il est intéressant de suivre sur le long terme. Et c'est dans cette perspective du long terme qu'on a choisi d'inscrire aussi le colloque. On peut chercher en particulier à déterminer dans quelle mesure les acteurs des pratiques rituelles oscillent entre la revendication d'une spécificité et l'insertion dans une tradition partagée. Et dans cette perspective, le thème de la force des coutumes et de la tradition dans le déroulement des rituels religieux est un thème clé. Nombreux sont les textes de l'époque classique jusqu'à l'époque impériale romaine qui insistent sur l'idée, sur l'importance de faire fonctionner comme norme en matière de comportement religieux un héritage ancestral. Or, il est intéressant, je crois aussi, de relever dans cette documentation l'idée que le respect des usages ancestraux doit aller de pair avec ce que les textes appellent un accroissement des pratiques cultuelles de la cité. Dans un décret de Lindos, à Rhodes, justement au sujet du culte de Dionysos, daté du 1er siècle de notre ère, s'exprime ainsi le souci de rehausser, c'est synoxein en grec, de rehausser les processions et les sacrifices, mais aussi de redoubler de piété et de tenir compte de la coutume ancienne. Alors, on retrouve certes ici le lien entre mémoire religieuse et stratégie identitaire au profit d'élites civiques qui sont soucieuses d'exprimer une image de cohésion communautaire et de manifester aussi l'organisation séculaire de la communauté. Mais ces injonctions à des comportements conservateurs, finalement, débouchent en même temps sur une revitalisation de pratiques religieuses dont on peut penser qu'elles participent d'une réaffirmation de l'identité civique et de ce qu'un texte, une inscription de Millet, par exemple, appelle la pérennité de la cité. Enfin, quand on parle de dynamique religieuse, on peut prendre en compte le culte impérial qui occupe une place particulière dans la mémoire collective des cités grecques et donne lieu justement à des phénomènes de transfert rituel. Je pourrais prendre l'exemple d'une loi sacrée de Gutéion, la région de Sparte, qui institue des fêtes en l'honneur du prince défunt, il s'agit d'Auguste, et de membres de sa famille, Tibère. On a là un texte qui précise la nature des rituels célébrés en l'honneur de l'empereur et de la famille impériale, mais aussi les modalités de leur intégration dans le paysage religieux de la cité. Et au-delà de l'importance qui est accordée à l'agoranum, dont le rôle se révèle prépondérant dans l'organisation des rituels, on perçoit dans ce texte la place accordée à la cité et à toutes ses composantes. C'est elle qui fournit les images des membres de la famille impériale qu'on fait placer sur des bases au théâtre. Ce sont les membres du conseil et les collèges de magistrats qui font brûler de l'encens pour le salut des princes avant l'arrivée des artistes. La procession qui est organisée lors des concours scéniques rassemble les éphèbes, les jeunes gens au complet et les autres citoyens, ainsi que les jeunes filles consacrées et les femmes en vêtements rituels. Et on a là une procession qui prend comme point de départ le temple d'Asclépios et d'Hygie et aboutit au temple des Césars, où se déroule un sacrifice pour le salut des princes et des dieux. Voilà une inscription donc qui me paraît révélatrice, en tout cas, de la façon dont le culte impérial pouvait être intégré dans la religion publique des cités, le rituel permettant d'associer les dieux à une forme divinisée du pouvoir, de juxtaposer donc le culte dévolu à l'empereur à des cultes qui, de ce fait, pouvaient recevoir un éclairage nouveau dans la mémoire de la cité. Voilà donc quelques réflexions qui serviront, je l'espère, de jalon pour définir au moins certains des enjeux dont relève la thématique de notre colloque. Et donc, sans vouloir quand même vraiment trop empiéter, je vais maintenant d'abord présenter en quelques mots notre hôte, Pierre Brûlé, qui a bien voulu présenter donc la conférence qui servira d'ouverture à nos travaux. Donc ça, on pourra l'enlever.
Oui, je ensuite. Je peux voilà. Enlever ça.
Tu peux enlever ça.
Donc, pendant qu'on installe le diaporama.
Alors, c'est dans quel sens?
Alors, moi, apparemment, j'ai appuyé là-dessus sur la flèche. Ou alors, voilà, comme ça. Oui, j'avais pris dans le mauvais sens, peut-être.
On verra ce que ça donne.
Voilà.
Merci. Merci, bravo. C'était riche et complet.
Donc, alors, quelques mots, permets-moi juste quelques mots pour dire tout le plaisir qu'on a ici à Poitiers à t'accueillir. Ça n'est pas la première fois que tu es dans nos murs, mais on a à chaque fois énormément de plaisir à te recevoir. Donc, Pierre Brûlé, professeur émérite, comme on dit, d'histoire grecque à l'université de Rennes 2. Donc, quelqu'un qui a centré régulièrement, je dirais, ses travaux, ses réflexions, ses publications sur la religion grecque, justement, en publiant dans les années 80 déjà un ouvrage sur la religion des filles à Athènes, à l'époque classique, en étant responsable de tout un chapitre de l'histoire... comment ça s'appelait
La Nouvelle Clio.
Le monde grec au temps classique, dans la Nouvelle Clio. Donc, Pierre Brûlé avait rédigé tout le chapitre, justement, sur la religion. Il a dirigé un ouvrage sur la norme religieuse en Grèce. Donc, il a
dont
paru,
tu fus.
Dont je fus, dont nous fûmes.
Où nous mangeâmes un cochon.
2011. Ah, c'est vrai.
Cuit au four.
C'était mémorable en termes de rituel. c'est vrai, oui. plus récemment, un ouvrage aussi qui s'intitule « Comment percevoir le sanctuaire grec », avec en sous-titre l'idée d'une analyse sensorielle d'un paysage ou du paysage sacré, donc qui est apparu en 2012. Donc voilà toutes ces, enfin, choix de ces contributions qui concernent directement la religion grecque. Et j'ajouterai des recherches et des publications qu'il faut resituer aussi plus largement dans une perspective justement d'histoire sociale et culturelle. Et donc Pierre Brûlé s'est intéressé aux femmes, à l'histoire des femmes. Il s'est intéressé dans un ouvrage qui s'appelait La Grèce d'à côté, donc à peut-être voilà, le réel et l'imaginaire renvoyés un peu en miroir. Et puis plus récemment, un joli livre sur la pilosité, sur le poil, donc intitulé L'essence du poil. Voilà, qui donne cette dimension d'histoire culturelle et sociale aussi.
Je n'ai pas été invité ici. C'est bien dommage.
Voilà, donc maintenant, sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Donc, alors, pour une conférence donc, dont vous voyez le titre à nouveau ici.
Il n'y a rien que trois titres en réalité.
Voilà, et qui ne correspond peut-être pas tout à fait au titre que vous avez pu voir apparaître sur le programme publié par l'Espace Mendès France. Il y a eu, je crois, un changement sur un mot. Donc, ça stimule la réflexion. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'idée qu'on ait pu réfléchir au choix, justement, du mot qui va finalement être retenu. Donc, voilà, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci.
D'abord, bonjour à tous. Hein. Poitevine d'origine, Poitevin d'un soir. Bonsoir. À l'équipe qui a préparé ce colloque, pour que s'y épanouissent des beaux talents, à Yves Lafont pour m'avoir invité à causer, au contribuable pour sa contribution, merci. Donc il y a trois titres, rien que ça, et je dois avouer que finalement, comme assez souvent, le plus gros là, c'est celui qui a été choisi le premier, puis ensuite est venu celui qui est tout en haut, et puis finalement, plus j'avançais dans le travail, plus j'ai pensé que le vrai titre, c'était le dernier, que vous n'avez pas connu. Donc, quelques aventures de la famille Hieros, qui veut dire tout ce que vous voulez, surtout saint ou sacré, ou sans arrêt. Dans ma conférence, j'hésiterai entre l'une ou l'autre des traductions. Aucun terme, d'ailleurs, de la langue française ne correspond exactement à ce que les Grecs entendaient par Hieros ou Hieron. On verra ça plusieurs fois. Bien. Un petit mot pour lier en quelque sorte mon propos de ce soir à la présentation d'Yves Lafont et aussi pour la justifier d'une certaine façon, parce que je vais me trouver assez souvent assez loin de ce qu'il a présenté. La mémoire, les identités, les pratiques religieuses, moi, séduit par ce programme, j'avais décidé d'étudier, lors du colloque et non pas ici, le rôle joué par le théâtre athénien dans la fabrication du passé religieux de la cité. C'est toujours un très beau sujet, d'ailleurs, que d'utiliser le théâtre athénien pour montrer de quelle façon ils ont construit leur passé religieux, c'est-à-dire leur mémoire religieuse, si on peut dire les choses comme ça. Mais ayant accepté la proposition d'Yves de passer d'une communication à une conférence, J'ai dû prendre de la hauteur, penser que c'était peut-être un peu trop spécialisé, si je puis dire, et de monter un peu plus haut et de s'intéresser, il faut être gonflé quand même, à la perception du divin, à la conception du divin ou des divins dans la pensée grecque. Évidemment, une heure et demie, trois heures, quatre heures ne suffiraient pas. Donc, évidemment, je vais simplifier les choses. En tout cas, ne vous attendez à nulle découverte, hein, mais plutôt des occasions d'éclairage différents. J'ai fait distribuer, j'espère que vous l'avez, un exemplier, comme on appelle ça. Et lorsque certaines diapos vont passer, il y aura aussi à côté EX1, EX2, c'est-à-dire que la diapo correspondra à un passage de l'exemplier. Donc je ne m'en occupe pas, hein, je vous laisse le manipuler comme vous voulez. Je vais commencer par une provocation, et vous provoquer sur l'image classique habituelle qu'on donne de la Grèce et de la raison avec un grand R. Désolé. À l'inverse du discours tenu sur la Grèce classique, ressassé de livres en magazine et sur fond de temples et de pain parasol, avec sa raison victorieuse, je mets des guillemets, ça s'entend pas, éclairée par les lumières, avec son sempiternel siècle de Périclès, tout en guirlandé de conquête de l'esprit. Ça suffit, non ? Désolé, mais à lire les hommes de ce temps, l'irrationnel surgit sans arrêt. Sachez-le, quand des grands écrivains classiques comme Xénophon, c'est sans arrêt que apparaît l'idée que la vérité des présages est la meilleure guide pour la raison humaine, et enfin que, comment vous dire, les recommandations des songes comptent autant que les dieux. Si tous de ces gens-là ne s'effraient pas de voir un jour la belette traverser leur chemin tout à trac, qui ne croit pas donc à la vérité des présages et qui ne croit pas non plus aux recommandations des songes? Et c'est pour ça qu'il a construit un temple d'Artémis à Chillon, à côté de ce dont on parlait tout à l'heure, à côté d'Élis. Ils lisent, ces gens-là, le cosmos comme un réceptacle de signes imprimés par des puissances invisibles. À eux de les interpréter. Et ils vous en transforment très aisément un nuage en apparition. Alors, notons d'ailleurs qu'entre parenthèses, peu de Dieu dans tout ça. Lorsque vous lisez ces passages, vous cherchez le divin, il n'est pas sous la forme divine, il est autrement. Ça va être un peu le sujet de ce soir pour moi. Ça va sans doute heurter vos conceptions héritées, mais il faut se garder d'idéaliser l'influence de cette fameuse boîte à outils, j'appelle ça comme ça, hein, j'appelle ça la boîte à outils des intellectuels des Grecs, en la ramenant toujours à cette fameuse raison. Je viens toujours à cette petite anecdote que raconte Plutarque sur l'éclipse de soleil ou de lune, je ne sais plus, qui avait lieu au moment du départ de la flotte athénienne pour la Sicile, où, soi-disant, Périclès, grand raisonnable, bien entendu, hein, jetait un manteau sur les yeux du pilote qui ne voulait pas piloter parce qu'ils allaient à la catastrophe, forcément, avec ce qui se passait là. Bien. Change de sujet complètement pour vous parler un petit peu de notre bagage scolaire sur la seule religion polythéiste qu'on étudie vraiment, d'ailleurs, après l'Égypte, hein, quand on est en sixième, c'est donc la religion des Grecs. Voyez un exemple de ce qu'on peut lire dans certains... Oh, bien sûr, il est un peu ancien, hein, dans certains manuels. Ça va vraiment servir de départ. Je le lis parce que c'est délicieux. Primitivement, les Grecs, encore grossiers, comme aurait dit Rému, encore grossiers, étaient fétichistes. Bien. Comme certaines tribus africaines d'aujourd'hui. Ils attribuaient une puissance surnaturelle à des objets matériels, arbres, pierres, qu'ils conjuraient, ça aussi il faut le faire pour connaître la religion grecque, qu'ils conjuraient par des pratiques de sorcellerie. Ils conservèrent longtemps, par exemple, le culte du chêne à Dodone en Épire. Alors ça traîne partout, ça. Le chêne de Dodone, ça, c'est l'exemple de ce qu'on appelait le Baumkult, hein, le culte de l'arbre. Bon, on en a fait notre deuil depuis. Plus tard, aidés par leur vive imagination, j'adore, ils transférèrent à des dieux, voyez, hein, la domination des forces de la nature. Il y a un aspect de ce texte qui est extrêmement intéressant, c'est la vision évolutionniste de la pensée religieuse. On va vers un progrès. Non, je n'ai pas le temps, ce n'est pas pour ce soir. Je ne peux pas vous en parler. Ça a tellement nuit à la compréhension, à l'intelligence, plutôt que d'ailleurs de penser à analyser les rituels ou la pensée en général. Ces Grecs qui se sont affinés, vous avez vu, hein, comme ils s'affinèrent, évidemment, ils allaient croire de moins en moins à la divinité des pierres et des arbres et de plus en plus à des dieux. Ça, je contredis d'ailleurs le titre qui parlait de « Les dieux n'étaient que des hommes ». Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour analyser ce truc-là. Bien, alors, non, mes Grecs à moi ne sont pas fétichistes, évidemment, ce n'est pas ça. Hein. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est que néanmoins, toutefois, des objets. Alors, je vais être très embêté ce soir pour définir un peu mieux ce que c'est que des objets dans lesquels il y a du divin. Vous parlez de choses même, tellement c'est difficile à dire, dans lesquelles il y a du divin, que, bon, vous me pardonnerez cette espèce de définition qui n'en est pas une. Des objets ont assurément constitué d'actives composantes de leur sacré. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, tout est parti, que c'est souvent comme ça pour moi, d'une relecture 40 ans plus tard, j'ai relu deux mots d'une inscription qui a longtemps fait partie, pendant toute ma carrière universitaire, de ma valise pédagogique. J'en ai une valise pédagogique, les profs, évidemment. Hein, et deux mots relus cet automne, mais qui, donc, d'un seul coup, je me suis dit, mais j'ai rien compris, là. C'est pas ça. J'ai souvent fait semblant de comprendre lorsque je présentais cette inscription à des étudiants, mais en réalité, je me suis aperçu récemment donc, que je m'étais planté. Enfin, plus exactement, que je n'avais pas vu à quel point ces deux mots en disaient beaucoup plus que ce que je pensais. Alors, les deux mots, je vais vous montrer bientôt. Ces deux mots, ce seront justement le mot « hieros », mais le mot « hieros » a couplé, en quelque sorte, à des objets, à des choses. Voilà le plan que je vais suivre. Je fais ça de façon très pédago, hein. Je vais vous parler, comme on parle souvent en ce moment, d'ailleurs, dans d'autres colloques, du serment, parce qu'on va parler, on va partir d'abord de ça. Ça va être un petit peu long, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'exemplier aussi. Hein. Je vous parlerai ensuite d'un. Le point 2, ça sera l'utilisation d'un plaidoyer du 4e siècle, d'un homme politique, on appelle ça comme ça, mais ça n'existait pas sur la Grèce, mais enfin, ça ne fait rien. C'est plus facile. Un homme politique qui s'appelle Lycurgue. Donc, une chora habitée, c'est la campagne. Hein, c'est... Et ensuite, ça sera encore plus technique, l'expression « hiera patroia » ou « hiera ta patroia », c'est-à-dire les saintetés, les sacralités de la famille. En gros, ça sera ça. Et puis, un certain nombre d'exemples qui seront des exemples de passage de la chose à la chose divine. Et je clorai par un examen de l'Eucharistie. J'espère que ça ne vous gênera pas. Hein. C'est la prière eucharistique, c'est l'exemple typique de ce que je vais vous expliquer avant. Donc on commence par le serment. Alors le serment, on peut l'étudier de multiples façons, n'est-ce pas ? Et en particulier, il y a des lectures très patriotiques du serment que je vais vous lire maintenant. Il y a des lectures initiatiques, donc tout ça c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait intelligent. Moi je me limite là à une lecture religieuse. Hein. Évidemment je parle de religion ce soir, puisque je parle du divin. Ce texte est un texte à l'origine épigraphique celui-là, mais on a des versions littéraires, hein, on a deux autres versions littéraires de ce texte. C'est le serment qui était prononcé, juré, parce qu'on verra tout à l'heure qu'on disait jurer un serment. Hein. L'expression grecque exacte, quand on l'a traduit exactement, c'est jurer un serment. C'est pas proférer, c'est pas je sais pas quoi. Alors je vous le lis. Hein. Je ne déshonorerai pas mes saintes armes. C'est Matrado. Hein. J'ai mis MaRTR, c'est Matrado, parce qu'on a des traductions assez proches les uns des autres, mais pourtant j'ai fait un certain nombre de choix bien précis dans ma traduction. Donc, les saintes armes, c'est comme ça que je les appelle, Oplata Hiera. Je n'abandonnerai pas mon camarade de combat seul ou avec tous. Je combattrai pour la défense des choses saintes et sacrées. Ça aussi, je le traduis comme ça. On peut le traduire un peu autrement. C'est Hierosios, hein, dont tu parlais tout à l'heure. Je ne laisserai pas après moi la patrie amoindrie. Vous voyez qu'on peut faire une lecture patriotique du serment, bien sûr. Mais plus grande et plus forte que je l'aurai reçue. Je serai soumis aux lois établies et à toutes celles que le peuple établira d'un commun accord. Si quelqu'un veut les renverser avec l'aide de tous, je m'y opposerai, etc. J'honorerai les saintetés de mes pères, hiera ta patria, timeso, le verbe timeo, on va le retrouver ce verbe. Alors, Dieu témoin, je traduis, alors souvent c'est pas traduit, et histores ici, qu'on va retrouver tout à l'heure, est un dérivé du verbe ideim, qui est le verbe voir, sous une forme, vous voyez, assez modifiée, n'est-ce pas? Et parce que les dieux sont les voyants du serment. Alors là, on a une liste de divinités, comme souvent dans les serments, on trouve ça, c'est banal hein, pour les gens qui ont l'habitude. Alors Agrolos, parce que le serment se prête précisément dans le sanctuaire de cette divinité, spécifiquement athénienne. Hein. Vous ne la trouvez pas ailleurs, pratiquement. J'ai cru la trouver un jour ailleurs, à Chypre, mais bon, c'est pas sûr. Agrolos, Estia, Enyalios, c'est un tout petit dieu guerrier, hein, ça. Arès et Athéna, Aréa, c'est le seul moment dans cette liste où les dieux sont en couple, comme ça. Il y a un kai, il y a un e entre les deux. Zeus, Talo, Oxo et Gémoné, vous avez là des dieux que vous n'avez jamais rencontrés, hein. C'est normal. Héraclès, lui, il est là parce que spécifiquement, ce texte épigraphique a été découvert dans un dème d'Athènes dans lequel il y avait un culte particulier d'Héraclès. Donc, on s'en fiche un peu. La suite m'intéresse beaucoup plus parce que les voilà mes objets. Voilà les mots que j'ai lus et que j'ai mal compris pendant des années. Parce que là, il n'y a pas de solution dans la continuité. Vous pouvez le remarquer, il y a les dieux, puis il y a d'un seul coup les bornes de la patrie. Je reviens à cette expression après, les blés, les orges, les vignes, les oliviers et les figuiers. Alors les bornes, d'abord, c'est le mot « oroi » qui est ici. Et la plupart du temps, c'est traduit par « frontière ». Frontière est un terme qui est tout à fait correct pour rendre compte de la série des oroi qui marque. Ce sont des bornes en pierre, fichées en terre, qui marquent dans le paysage campagnard, par exemple, les limites des propriétés. D'accord. Et donc les bornes de la les bornes de la cité seraient forcément les frontières, bien entendu, c'est normal. Mais frontière est un terme abstrait, alors que tout ce qui suit, c'est du très concret. Hein? Et j'ai voulu respecter cela en traduisant bornes et non pas frontières. Ça se discute pas, c'est comme ça. Oui. Alors le serment. Le serment. On va beaucoup en parler. La présence de Hieros... Ah oui, tiens, pourquoi c'est en rouge? Mon fil rouge, c'est donc la famille Hieros, la famille sainte sacrée. On la trouve où? D'habitude, on la trouve pour les dieux. Oui, mais il n'y a pas que les dieux, quoi. Alors ça, c'est sans doute ce qui m'a le plus intéressé du moment que j'ai commencé à réfléchir à mon sujet, au sujet que je prenais petit à petit, quoi. C'est qu'en réalité, notre double page du livre de sixième avec les images à gauche ou à droite, je ne sais plus, le texte à gauche, les images à droite, moi j'ai enseigné en sixième, c'était comme ça, puis il y avait les images, il y avait une Athéna casquée, il y avait un Héraclès comme ça, et puis tout, quoi. Bon. C'est les dieux. On ne s'occupe que des dieux. Prenez un livre d'histoire de la religion, enfin d'histoire, non. Ça, on n'ose plus écrire maintenant histoire. On avait des geschichte, on avait des history, mais l'histoire, ça a disparu. C'est la religion grecque. Bon. Eh ben, cette religion grecque, elle ne s'occupe que de ça. Que de ça. Or, en réalité, le monde, c'est pour ça que j'ai parlé de la raison au début aussi, hein, le monde dans lequel vivent ces gens-là n'est pas seulement celui constitué par les dieux qui se connaissent, qui sont ensemble, une sociologie, puis alors, ils sont venus après, et puis s'il y en a un qui est là, l'autre, il n'est pas là, etc. C'est pas tout.
C'est pas tout. C'est pas simplement le reste, c'est pas simplement de la superstition. C'est ça que je veux dire. Il y a du sacré, j'allais dire partout. Mais non, presque. Alors, ce serment, si je l'ai choisi aussi pour vous le montrer, c'est effectivement la présence de Yéra. Yérom, Yéra. Trois mots, hein, qui sont de la même famille, bien sûr. Puis, de la même famille aussi, on verra tout à l'heure qu'on en a plein d'autres. Et si dans un serment, les jeunes de 18 ans, hein, les éphèbes, ils ont 18 berges, là, ils commencent leur éphébie, ils prononcent ça, ils associent, je dirais naturellement, mais aussi traditionnellement, bien sûr, cette qualité à un certain nombre de choses, par exemple les saintetés des pères. Qu'est-ce que c'est que ça, les saintetés des pères? Qu'est-ce que c'est que les hieras de ta patria ou de la patrie, si vous voulez? En réalité, c'est ça que je vais essayer de développer. Alors, je vais reprendre le serment. S'il est là, ce serment, pour moi, c'est aussi parce que dans le contenu même de la signification, la phénoménologie, si vous voulez, hein, si on veut être savant, du serment, il y a là la même idée qu'il y a des choses qui ont en elles-mêmes un pouvoir saint, sacré, dans lesquelles il y a du divin, incorporé, si vous voulez, ou dans la fusis, si vous voulez dire ça en grec. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, comment ça fonctionne, le serment? L'exécution loyale d'un serment nécessite la présence de garants, l'existence au moins de garants. Or, raisonnement, seuls les dieux ont l'ubiquité, la puissance, l'autorité de vérifier l'exécution loyale des serments. C'est ce qui explique que dans tout serment, il y a une liste de dieux. Bon, point à la ligne, mais on pourrait s'arrêter là. Si vous voulez, l'idée, c'est que les dieux sont témoins, martyroi, c'est le terme exact, hein, les témoins sont des martyroi. Dans un procès, on fait venir des témoins, c'est comme ça qu'on les appelle, mais on les appelle aussi des histores, comme c'est quatre lignes avant la fin, le dernier mot à droite, c'est-à-dire ceux qui voient, donc ceux qui savent. Et s'ils savent, évidemment, toute personne susceptible de se parjurer sait que de toute façon, elle est coincée, que les dieux la trouveront toujours et que les dieux ont la puissance pour punir. N'est-ce pas? Bien. Je fais une petite parenthèse assez bizarre que je n'ai jamais lu cette remarque, mais ça m'est venu en réfléchissant à tout ça. C'est que corollairement, jurer serment implique la croyance à l'existence et à l'efficacité des dieux qui surveillent. Un athée, comment peut-il jurer? Pas possible. Pas possible. Bon. Alors maintenant, évidemment, il faut aussi que je m'occupe d'autre chose. Je suis passé trop vite tout à l'heure. Voilà comment on jure. L'expression, c'est orkon. Il y a une aspiration sur le H. Hein, orkon. Orkos, c'est le nom du serment. Omnumai, c'est le verbe. En quelque sorte, jurer serment. Jurer le serment. C'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, comment ça marche? Pour savoir comment ça marche, il faut prendre des exemples. Des exemples de serments, on va les prendre d'abord chez Homère, puis on va descendre un petit peu, on va aller jusqu'au 4e siècle, fin 4e siècle avant, pour savoir. Mais au fait, qu'est-ce que ça signifie, jurer serment? On peut prendre des exemples assez simples au début, là par exemple Agamemnon, c'est beaucoup dans l'Iliade au début, beaucoup Homère. Hein. Homère, presque rien dans l'Odyssée, on jure beaucoup dans l'Iliade, forcément. Il y a des serments, et on va à la guerre, il faut s'entendre, il faut se détester, il faut s'aimer aussi. Et donc, dans l'Odyssée, non, c'est moins fréquent, c'est normal. En revanche, on trouve, pour ceux qui connaissent cette littérature, juste après Homère, beaucoup de serments dans ce qu'on appelle les hymnes. Hymne à Apollon, hymne à Déméter, tout ça, on trouve beaucoup de ces serments. Alors, si on prend le premier ici, Zeus, et pour retentissant d'Héra, parce qu'il est le tonnerre, retentissant, soit témoin de notre serment. Ces mots dits, il lève son sceptre en appel à tous les dieux. Orchia, le premier mot, c'est Orkon de tout à l'heure.
Et isto, le quatrième mot ici, isto, c'est le verbe voir. En réalité, Zeus voit. Zeus voit. Donc, si Zeus voit, c'est impossible d'échapper. Beaucoup plus intéressant, c'est l'autre exemple, le suivant. Vous avez un exemple de discussion entre deux dieux. Ce sont vraiment deux dieux. En réalité, c'est l'île de Délos, mais divinisée, et qui discute avec Leto, la mère d'Artémis et d'Apollon, hein, pour savoir si Délos veut bien qu'elle accouche là, pour que les jumeaux naissent là, mais à condition de récupérer en quelque sorte un grand temple, un grand sanctuaire. Voilà. Délos donc dit à Leto, si tu t'engageais, déesse, à me jurer par un grand serment, ah oui, les dieux entre eux jurent par le grand serment, on verra ce que ça veut dire, parce que, regardez, lorsque des hommes jurent entre eux, ils peuvent avoir pour garant des dieux, mais lorsque des dieux jurent entre eux, qui prendre? Donc ils ont un serment particulier. Et leur serment particulier, on le verra, c'est l'eau du Styx. C'est l'eau du fleuve des enfers. Mais entre eux, ils appellent ça le grand serment. On le sait par Homère. Bon, alors je lis la phrase maintenant. Si tu t'engageais, déesse, à me jurer par un grand serment, qu'ici même Apollon, donc, quand il naîtra, fondera d'abord un temple magnifique qui serait l'oracle des hommes. Ah, si elle accepterait donc que Leto accouche. J'en atteste la terre et le vaste ciel. Gardez en mémoire ça, qu'il y a déjà des objets. Parce que là, on ne peut plus avoir autant de dieux pour pouvoir assurer. Mais on va se saisir d'objets. Ces objets-là sont la terre et le ciel. Ce n'est pas Uranos le dieu. C'est la terre et le ciel, vous le vérifierez petit à petit. Et l'onde débordante du Styx, le fleuve qui coule aux enfers, c'est le serment le plus grand et le plus terrible qui soit pour les dieux bienheureux. Je pense que je suis en train d'aller trop lentement. Ce que je veux arriver à vous démontrer, c'est que, contrairement à l'impression, à l'habitude, et surtout à notre façon directe et sans vérification d'aller vers les pensées des anciens, le fait de jurer n'est pas qu'un fait de langue. On pourrait penser que la profération, le simple fait de dire, suffirait. Eh bien non, pas du tout. Vous allez le voir, le sens du serment antique le serment antique, plutôt, la phrase sera mieux comme ça, ne prend tout son sens que si un objet est concerné et une certaine façon, est concerné d'une certaine façon. Comme je le dis ici, n'est pas qu'un fait de langue, c'est un acte précis consistant à s'emparer, se saisir d'un objet. Tout à l'heure, vous aviez un sceptre. Hein? Agamemnon touchait un sceptre. Il a parlé d'un sceptre. On reparlera du sceptre. Moi, j'aime beaucoup Héra quand elle dit à Zeus, m'en sois témoin, isto, toujours le verbe voir. Hein? La terre nous voit, le ciel nous voit, sur nos têtes, et l'eau du Styx dans sa chute. M'en sois témoin aussi, ton front sacré, elle parle à son époux, hein? Et le lit de notre légitime hymen par lequel je ne jurerai jamais sans raison. Alors, je continue parce que ce n'est pas la peine de commenter à chaque fois. Qu'en soit témoin, toujours pareil, Isto, le horkos des dieux, l'eau implacable du Styx, stugos udor, c'est comme ça qu'on dit. Zeus soit témoin, Isto, de notre pacte, orkia, c'est l'horkos. Hein. C'est maudit, il lève son sceptre en appel à tous les dieux. Et enfin, Achille, qui parlant à Agamemnon, lui parle de son méganorcos. Le texte le plus intéressant, c'est sans doute celui qui suit là. Dans l'Iliade. Hein. Jure-moi par l'eau inviolable du Styx, touchant, le verbe agréo, j'y reviens au verbe, d'une main le sol nourricier, on avait tout à l'heure la terre, le ciel, hein. Alors c'est le sol. D'une autre, la mer étincelante pour que les dieux soient témoins. Alors, c'est martyroi, pour un, c'est pas histores comme là, mais c'est synonyme. Ça veut dire témoin de toute façon. Alors, le meilleur passage qui nous dira de quoi il s'agit dans cette affaire-là, c'est le passage, c'est un passage de la Théogonie d'Hésiode, où Zeus n'est pas content des dieux. Il ne sait pas s'ils disent la vérité, s'ils lui disent la vérité. Et il les convoque et il dit à Il risque d'aller chercher l'eau du Styx dans une aiguière, de ramener cette eau et que les dieux jurent sur l'eau du Styx, parce qu'il n'y a pas plus fort, Orcos, il n'y a pas plus fort témoignage possible que l'eau du Styx. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. Jure-moi par l'eau inviolable du Styx. C'est que Agréo ici, c'est, je prends la traduction classique, habituelle de Mason, de l'Iliade, là, hein, il dit touchant. Mais Agréo, ce n'est pas touché. C'est plus que toucher. C'est s'emparer. C'est saisir. Vous me direz, ça nous fait drôle qu'on saisisse l'eau. Oui, mais l'eau du Styx, c'est pas n'importe quoi. Je ne vais pas m'en tirer, là. Si on me cherche des raisons matérialistes, je ne pourrais pas m'en tirer. Effectivement, la profération du serment ne suffit pas. Il faut, pour que le serment soit efficace, durable et exécuté, loyal, que celui qui jure saisisse un objet, s'empare de quelque chose. Des exemples, on peut en trouver au IVe siècle. Donc là, on est en pleine époque. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. C'est un plaidoyer assez salé, d'ailleurs, sur l'homosexualité masculine et des gars qui font le tapin. Hein, c'est le contre-Timarque d'Échine, ce texte, qui est un texte, un plaidoyer, quoi. Hein, un avocat qui plaide la cause d'ailleurs des papas. Quand il jure, dans ce texte, il parle d'un type qui s'appelle Timarque, qui a triché lors de la réunion de sa fratrie pour empêcher que quelqu'un rentre dans la fratrie. Bon, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour les persuader, pour persuader les gens qui votaient ce jour-là, il saisit dans ses mains les hiéras, toujours le même mot, hein, évidemment, et prend à témoin les dieux du serment. Alors, il saisit à les mains, par ses mains, donc, quoi donc ? J'ai pas mis tout le texte. En réalité, il y a un sacrifice et il s'empare d'une certaine partie des viscères de l'animal qui vient d'être sacrifié, ce qu'on appelle les splanctas. Et donc, là, c'est l'objet concret, si vous voulez, le matériel. Les hiéras sont dedans. Hein, les hiéras sont dans l'objet qu'il saisit. Je viens de m'apercevoir, d'ailleurs, récemment, que dans une inscription récemment publiée, qui est un accord international du nord-ouest, de la Grèce, on trouve aussi cette idée que dans un serment, on touche le sang de la victime, on saisit. Voilà. Bon, j'en ai fini presque avec ça. Même si l'énoncé solennel du serment est indispensable, le horcos n'est pas qu'un produit de parole. C'est une matière. On a vu de l'eau, on a vu de la terre, on a vu le front, on a vu le lit, on voit les viscères ici, qui sont matière qui est elle-même riche, je vais employer plusieurs fois le mot maintenant, je vais donc le prononcer doucement, riche d'une dynamisme, c'est-à-dire d'une puissance dynamique. Le mot français vient de la dynamisme, la puissance qui se trouve à l'intérieur de l'objet et qui est évidemment sacré, hieros, hieron plus haut, on pourrait dire. Néanmoins, tout ça ne m'a pas expliqué la présence de tous ces objets qui sont à la fin du serment des éphèbes de tout à l'heure. J'ai bien conscience que ça n'explique pas tout. Bien sûr, je peux dire qu'à partir des noms des dieux, qui sont tous hieroi, évidemment, la suite doit être de la même eau, si je puis dire, hein, du même acabit. Mais pour autant, je ne suis pas encore tout à fait satisfait. Je n'ai pas vraiment pu dire à quel point ça pouvait se ressembler. Néanmoins, là, à la ligne 1, je repasse le même serment que tout à l'heure. Hein, à la fin de la ligne 1, moi, je n'ai pas de doute. Il s'agit bien de saisir les armes. Il s'agit bien de prononcer le serment ayant en main les armes sacrées, et qui fait d'ailleurs, qui donne à ces objets un statut dont il ne faut pas édulcorer la signification. On lira, moi c'est ce que je faisais quand j'avais cours, c'est pour ça que j'ai relu ça, mais j'ai dit, mais non, c'est fondamental, c'est dedans. Alors on ne va pas dire, la lance, le bouclier sont des divinités, ce n'est pas ça la question. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des termes qui définissent ce qui est divin. Il n'y a pas de doute, c'est Hieros, c'est toute sa famille. Mais bon, on le trouve partout. On le trouve dans beaucoup d'objets, en tout cas. Pour savoir si je ne me trompe pas, on va faire deux petits tours. Un tour vers le sud, vers la Crète, et un tour vers le nord, vers le pont Euxin, et la mer Noire. Je me suis dit, mais est-ce que les Athéniens sont les seuls, comme ça, à citer des objets en même temps que des dieux ? Et si c'était un unicum, c'était très embêtant, parce qu'effectivement, tout raisonnement devenait un peu spécieux. Je vais montrer ça, parce que je trouve ça tellement joli, cette photo. Il n'y a aucune raison de montrer cette photo. Si, c'est là-haut, sur l'acropole de gauche, pour nous, hein, que se trouve l'antique et très vieille cité montagnarde de Dréros. Et figurez-vous que de la même façon que les éphèbes athéniens, lorsqu'ils étaient en âge de commencer leur service militaire, si on peut dire, mais des guillemets, ils prononçaient aussi un serment qui est là au début. Alors, quand je mets EX 12 13, ça veut dire que sur ça, hein, ça vous renvoie à l'exemplier au texte 12 13. Hein. Alors, on retrouve la liste de la même façon. Vous voyez, ils enfilent les dieux. Estia du Pritané, Zeus Agoraios, Zeus Talaios, Apollon Delphinios. J'arrête. Mais la fin, qu'est-ce que c'est intéressant, la fin. D'abord, on y trouve des héros, pas seulement des dieux. Par exemple, Phoenix, Amphionné. Puis d'un seul coup, voilà, la terre et le ciel, qu'on avait trouvé chez Homère. Donc, c'est des vieilles façons de jurer. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que d'un seul coup, voici les héros et les héroïnes, et puis les fontaines et les rivières. J'assimile les fontaines et les rivières aux bornes de la patrie, aux figuiers, aux machins, un truc chouette, hein. Pareil, quoi. Et puis, autre exemple, alors, dans le temps très loin, puis c'est une cité coloniale, c'est pas pareil, c'est une cité récente, à Chersonèse, au nord de la mer Noire, les éphèbes, si vous voulez, jurent par Zeus, Terre, Soleil, Parthénos. Alors, Parthénos, c'est un dieu que vous connaissez pas, une déesse que vous connaissez pas, mais il y a comme ça des tas de dieux et de déesses dans le monde grec que vous ne trouvez pas dans les manuels, parce que simplement c'est compliqué. Il y a 800 cités, il y a 800 panthéons. Alors bon, il hein, faut s'habituer à ça. Au début, ça fait drôle. Et puis alors, les héros, alors les déesses, les dieux et les déesses olympiens, les héros, la cité, le territoire, les remparts, qui sont témoins du serment, comme le sont les bornes de la patrie tout à l'heure, de la même façon. Alors je fais la somme, tenez, de tout ce que j'ai relevé, des fontaines, des rivières, un territoire, des remparts, des fruits, des bornes, des blés, des orges, des vignes, des figuiers, des oliviers, les oliviers deux fois cités, normal. Ils appartiennent tous à la catégorie de hiera, au pluriel, hein, c'est hieron, hiera. D'autres objets s'ajoutent, par exemple chez Lycurgue, on trouvera des navires, des murs, des ports, des trophées, des arsenaux. Mais je dois avouer qu'au stade où j'en suis, là, de ma petite histoire, le statut métaphysique m'échappe encore, parce que je ne vois pas. Ça nous semble tellement curieux, tellement bizarre, que les dieux soient avec des figuiers, qu'ils soient mélangés en quelque sorte, et pas forcément les derniers, hein, pas forcément placés tout à la fin, comme ici, on ne peut intervertir la terre, le ciel, les héroïnes, les fonds, etc. Quoi. Alors, on va faire un très lointain détour, puis on va avancer, parce que je suis très bavard. Le lointain détour, pour essayer de comprendre, c'est d'aller à Athènes au IVe siècle, donc assister à un procès. Le contexte du discours est historique, cette fois-ci. Ce n'est pas des poèmes, hein, c'est historique. En 338, les cités de Grèce sont battues à plate couture par Philippe II, vous connaissez un peu, à Chéronée. 1000 Athéniens sont morts. On oublie souvent de parler de ces choses-là. J'ai remarqué. 1000 Athéniens sont morts. 2000 ont été saisis, donc c'est l'esclavage. Hein. Et Athènes est menacée d'une mise, au moins d'une mise sous tutelle par Philippe II, voire d'asservissement. Ils ont la trouille. À cette nouvelle, un nommé Léocrate, bourgeois athénien, plie bagage, se taille, hein, parce qu'il a la trouille, tout simplement. Il peut mettre son argent de côté. Il fuit à Rhodes. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite carte qui n'avait pas pour fonction de servir à ça, mais j'ai trouvé que ça au début. Il s'enfuit. Il s'enfuit à Rhodes d'abord, puis revient à Mégare, d'où il dirige d'ailleurs ses affaires athéniennes. Et en 330, vous avez tout à l'heure, c'était 338, en 330, il se décide à rentrer, pensant que peut-être on ne l'embêtera pas, que sa désertion, en quelque sorte, ne lui coûtera rien. Il rentre donc à Athènes. Lycurgue, un homme, qu'on appelle ça un homme d'État, c'est un peu idiot, hein, c'est, ça n'a pas... Enfin bon, passons, c'est pratique de dire ça. Un homme d'État athénien de l'époque, qui détient beaucoup des rouages des pouvoirs, l'attaque illico pour haute trahison, et et Lycurgue plaide, et c'est cette plaidoirie qui nous renseigne sur ce qu'il lui reproche, quoi. Ça commence d'ailleurs à peu près par ça, c'est pas tout à fait le tout début du plaidoyer de Lycurgue contre Léocrate, mais presque. Alors voilà de quoi il s'agit. Pour le salut du peuple et de la cité, je prie Athéna, les autres dieux, les héros qui habitent cette cité et ce territoire. Léocrate a livré leurs temples, leurs autels, leurs sanctuaires, les honneurs prescrits et les sacrifices hérités des ancêtres. Je distingue deux mots là, ici. Le mot hydroménoïs, ici, qui est le verbe hydruo, qui s'utilise pour ce qu'on appelle les hieras, c'est-à-dire les choses saintes et sacrées. C'est un peu la traduction qu'on pourrait donner ici. Son utilisation aide à restituer la réalité physique autant que mentale de ce peuple de Dieu, les autres dieux et les héros qui habitent ici, ce peuple de Dieu, et de la Cora, qui sont là installés. Il y a aussi le mot Cora. Ici, hein, territoire, cité et territoire. C'est une formule habituelle, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je demanderais dans un exposé, quelqu'un me ferait un commentaire sur Cora, alors qu'il y avait cité et territoire. Je dirais, bon, c'est bien, c'est pas la peine. Si, c'est intéressant, là. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est inhabituel. Ça veut dire pays, ça veut dire territoire, ça veut aussi dire un peu campagne par rapport à la ville, hein, la Cora. Ce rapprochement des deux termes donne l'image d'un territoire habité par la religion. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Statue, chapelle, image, temple, sanctuaire, certes, mais aussi, prenant Lycurgue au mot, les murs. Alors, je reprends ce que Lycurgue va dire tout à l'heure. Les murs, les ports, les arsenaux, les fortifications, et tout ce qu'il ne dit pas, parce qu'il n'a pas à développer tout ça. Qu'est-ce qu'on reproche à ce type qui s'est sauvé, quoi, qui a eu peur que les armées macédoniennes envahissent l'Attique et qu'il soit appelé sous les drapeaux, comme on dirait plus tard, soit qu'ils ont été mobilisés. Hein, donc il s'est sauvé, c'est ça qu'il a fait. Hein, machin. Ça y est, Léocrate. Qu'est-ce que lui reproche ? Il avait juré de protéger la cité, il s'est parjuré. Il n'a pas participé au deuil collectif. Il n'a pas défendu la Cora. C'est-à-dire quoi ? Il détaille. C'est ça qui m'intéresse dans tout mon exposé. C'est que souvent, on passe sur ces détails. Souvent, je veux dire, j'ai jamais trouvé. En réalité, il est question des objets sans arrêt dans ces histoires-là. Il y a des arbres, il y a des tombeaux, il y a les temples. C'est-à-dire les trophées qui sont dans les temples, hein, accrochés aux temples, les trophées de marathon ou des choses comme ça, sont accrochés sur les colonnes des temples. Il a livré, alors il a trahi la cité, les hieras, les choses saintes, les navires. On peut, dans cette mentalité, dans cette conception du monde, trahir des navires. Il a livré les temples, les autels, les sanctuaires, deux fois ça. Deux fois. Il a abandonné les tombeaux, il a abandonné les ports, il a abandonné les murs. Et à quel point, j'ai été sensible en lisant ces choses-là, avec un œil, c'est vrai, à un moment, j'ai eu un œil particulier, je dois bien l'avouer, mais sensible au fait que, en quelque sorte, je sais bien que ça, c'est outré de dire ça, mais le divin, il est dans les objets qui sont dans la cité, quoi. Hein? Bon, et depuis qu'il a fait ça, les arbres, les ports, les arsenaux, les murs de la Cora, les murs, c'est-à-dire les constructions, hein, de la Cora, c'est-à-dire de la campagne ici, implorent les citoyens depuis la trahison, hein, de Léocrate. Tout ceci pour vous mettre sur la voie, si vous voulez, d'une multiplication de la présence, j'ose le dire, du divin dans les endroits où on ne pense pas qu'il faille le trouver. Parce que c'est une faute contre les dieux, c'est une faute contre les dieux de la cité qu'a commise par Léocrate. Et depuis cette trahison, la Cora, dire la campagne, les arbres, les ports, les arsenaux, les murs, implorent les citoyens. Bien, je veux bien croire que dans le plaidoyer pour faire condamner le type, bon, il pousse. Je veux bien croire qu'il y a de l'exagération, mais les murs implorent, la Cora, la campagne implore. Les jurés sont habitués à l'enflure des plaidoiries, évidemment. On est habitués à ça, on s'y attend. Mais l'idée d'objet suppliant des citoyens ne convaincra les jurés parce qu'il y a un vote après. Il y a un vote, parce que c'est les citoyens qui votent. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais c'est comme si vous aviez l'Assemblée du peuple qui allait voter la clémence ou la condamnation. Comment ? Oui, non, mais tous là, 5 000, c'est pas pareil. C'est la présence physique immédiate, quoi. Hein. C'est quand même pas la même chose. Bon, enfin, bon, mais on pourrait parler de ça. Je doute, moi, ce qui m'étonne, par exemple, c'est que les jurés, donc ceux qui sont présents lors du procès, lors de cette plaidoirie-là, ne pensent pas qu'il extravague, quoi, qu'il pousse pas un peu le bouchon, en quelque sorte. Hein. C'est ce que je me dis quand je lis ça avec un air, comment dire, rationnel, quoi, un air non-croyant, je dirais. Alors, après, il faut questionner aussi le contenu. Il y a quelque chose qui m'a étonné, qui m'a peut-être mis sur la voie d'une interprétation, d'une meilleure compréhension plutôt. C'est le retour très fréquent des arbres. Les arbres, il a fait du mal aux arbres en partant. Il a fait du mal, mais il a trahi parce que les arbres, enfin bon, il les cite sans arrêt. Bon, alors je doute qu'il s'agisse d'arbres fruitiers. D'abord, je vais essayer de savoir si on pouvait savoir quels sont ces arbres de l'Attique qui, comme ça, sont retrouvés mal par la trahison, en quelque sorte, la fuite d'un éventuel soldat pour défendre la cité. Alors est-ce que... des bois? Non, ce ne sont pas des bois. Ce n'est pas possible. Doit-on imaginer qu'il y ait une sacralité des arbres, d'arbres banals, qui revêtiraient la même sainteté que les plantes d'un serment, par exemple? Ça semble audacieux. Pour nous, en tout cas. Et pour eux, c'est que le divin n'est pas à l'endroit où on croit, en grande partie. Et je vais vous donner un exemple que j'ai utilisé dans une fois ou deux déjà dans des publications et que j'adore. Oedipe avec sa fille Antigone fuit Thèbes. Il est aveugle, vous savez, il est malade, il est foutu, et il va crever, là. Il s'en va et il descend vers le sud et il arrive aux abords d'Athènes avec sa fille, donc Antigone. Et il cherche un refuge. Il cherche un refuge. Bon, je n'ai qu'à lire le texte, vous allez voir à quel point le sacré et le profane, bon, on dirait nous le profane, et les objets du réel, je dirais, si ça ne vous plaît pas, peuvent se mélanger. Allons, mon enfant, si tu vois un endroit où je puisse m'asseoir, soit en un lieu profane, le texte grec en réalité est un peu surtraduit par le français, mais comment faire? Un endroit où on peut marcher.
On peut marcher parce que c'est profane. Soit près des bois consacrés aux dieux. Alors le mot à la fin, Alcécine, là, c'est Alsos. C'est souvent ce qu'on appellerait un bois sacré, quoi, en français. Bois sacré des dieux. Théon, c'est génitif pluriel. Arrête-moi et fais-moi reposer pour que nous apprenions où nous pouvons être. C'est une errance. Oedipe a quitté Thèbes et il part. Le péché sur lui. Bon. Et sa fille lui répond, je vois des tours. Elle protège une ville. Ici, j'en suis certaine, c'est un endroit sacré. Formule un peu, disons, poétique de Hieros, c'est Hieros, hein, dans la pièce de Sophocle. Mais c'est exactement ça, un endroit sacré. Car, c'est cette conjonction-là qui m'intéresse le plus, car il est couvert de lauriers, d'oliviers, de vignes, sous le feuillage, nombreuses chantent les rossignols. Repose ici tes membres sur cette pierre rugueuse. Et la suite, il s'assoit, évidemment, on ne peut plus, il marche depuis Thèbes, il a plein d'eau. Oui, bon, passons. Si vous voulez, la première idée que je voudrais souligner ici, qui vient de ce texte donc d'une tragédie grecque du 5e siècle, qui m'a toujours intéressé parce que je voyais souvent mal le passage de ce qui se dit avant. Ils marchent, ils arrivent dans un endroit et ils découvrent que cet endroit a une composition botanique particulière. Elle le dit, hein, Antigone, il y a des lauriers, c'est des lauriers fleurs. Hein. Là, il y a des oliviers, il y a des vignes et sous le feuillage, il y a le chant des oiseaux. Eh bien, ça lui suffit. C'est un endroit sacré. C'est plutôt, il faudrait dire saint. C'est un endroit saint. Et donc, sans doute, y trouve-t-on la sauvegarde. Parce que en même temps qu'il marche, il fuit. Hein, Oedipe, il fuit. Et il y a tous ces aspects-là dans ce texte. Une des dispositions de pensée grecque surprend au passage au spectacle d'un paysage. La pensée pratique une lecture symbolique qui est une sorte de sacralisation de l'endroit. Certains biotopes qui se distinguent de leur environnement par une certaine composition qui peut être minérale, botanique comme ici, ou hydrologique assez souvent, une source, un étang, quelque chose comme ça, semblent appeler en quelque sorte un saut qualitatif de la physis, comme on dirait en grec, c'est-à-dire de la physique, si vous voulez, au sacré. Quelque chose qui permet le saut. Ainsi, tel morceau de paysage est qualifié de hieros. C'est le cas ici. Hein. On dira que cet endroit-là est saint, sacré. Ça ne veut pas dire forcément que d'ailleurs s'y pratique un culte. Ça peut être le cas. Ce n'est pas forcé. On peut reconnaître un endroit hieros loin même de la civilisation, je dirais. Hein, dans les montagnes de l'Afghanistan, les troupes d'Alexandre ont reconnu, vous m'entendez bien, c'est le verbe, ont reconnu dans une colline la présence de Dionysos parce que le paysage végétal leur disait c'est dionysiaque. J'espère que je suis convaincant. Mais ça semble tellement bizarre. Et ça nous semble bizarre. Bon, si ça nous semble bizarre, on va se mettre à penser que c'est pas vrai, mais bon, j'exagère. Alors. On peut aller plus loin d'ailleurs. Ça peut être l'identification par eux, par exemple, par les personnages, d'une certaine identité surhumaine. Là, je n'ai pas dit qui c'est, on ne sait pas. Mais comme c'est un polythéisme, ils peuvent y reconnaître, à partir d'un certain type de paysage, la présence de telle, peut-être pas de telle divinité, mais de tel groupe de divinités de tel type, par exemple. Hein. Il y a le choix. Là, on aura à déceler un paysage artémisiaque, ça je peux vous le jurer, ça existe, simplement en voyant, ou d'un paysage dionysiaque, par exemple, aussi, de la même façon. Il y a une correspondance, si vous voulez. C'est une mutation mentale qui consiste à déceler un état saint, sacré, d'un ensemble de plantes, d'eau, de pierres. Le grec appelle ça une katierosis, c'est-à-dire passer
d'un état, comment vous dire ça, d'un état profane à un état, si vous voulez, divin. Je sens que le mot est un peu gênant, moi aussi, mais il y a de ça, en tout cas. Je vais peut-être très long, non ? Hein, dis-moi, je suis long, hein ? Au moins, oui, celui-là, je vais en sauter un, je le sens. Hein. Oui, je crois que là, c'est un peu... Eh oui, mais je vais le dire quand même. C'est encore le discours de tout à l'heure, le discours de... Il s'appelle. C'est un trou, là. Celui qu'on a rencontré tout à l'heure. Qui s'appelle Lycurgue. Oui, ce brave. Parce qu'il y a des tas de Grecs qui se sont appelés Lycurgue aussi. Bon, c'est toujours lui qui essaye de faire condamner Léocrate, qui s'est sauvé, quoi. En fond, hein, c'est un déserteur, le type. Il est parti avec femme et enfants et tout, et ses richesses et tout. Il n'a pas suffi. D'ailleurs, il l'attaque là-dessus. Il parle de ce Léocrate. Il ne lui a pas suffi de mettre à l'abri sa personne et ses biens en se sauvant à Rhodes, vous avez vu. Il a traversé l'Égée et puis il est revenu après. Ses saintetés ancestrales, toujours les hiéras, hein, je travaille que là-dessus, moi, dont ses ancêtres avaient fondé le culte et qui lui avaient transmis selon nos usages et nos traditions. Alors il est allé à Rhodes, puis il est revenu. Et donc il les a transportés à Mégare, c'est là où il est revenu, et leur a fait quitter la Cora. La Cora, c'est-à-dire la campagne d'Athènes. Insensible à leur état de sainteté ancestrale. Tous ces mots-là sont fondamentaux. Les Hiérons, toujours la même racine. Hein. Il n'a pas craint de les arracher à la patrie. C'est pas surtraduit. C'est vraiment patrie. De les associer à son exil en les chassant de leur temple et du territoire qu'ils occupaient et de les installer, c'est une idée aussi religieuse là-dedans, sur une terre étrangère et inconnue où ils sont des intrus sur la Cora, la campagne, et dans les usages cultuels, les règles presque législatives de la cité des Mégariens. C'est les saintetés patrimoniales qui m'intéressent ici. Vous voyez, au milieu de la ligne, la sainteté ancestrale, ça traduisait en réalité un génitif pluriel patroon, là. Patroon hieron. Hein. Donc, patrimonial, j'ai bien raison d'employer ça. Elles peuvent être divisées en trois types dans la cité. Vous avez, il y a trois niveaux plus exactement. Il y a le niveau de la cité elle-même. Léocrate n'a pas défendu les hiéras comme tout citoyen doit le faire. Donc je les qualifierais plutôt de politiques, ces hiéras-là, ces saintetés. Il y a les saintetés des groupes de parenté. Alors par exemple, on appelle ça les fratries, hein, qui ont des hiéras à elles. Et puis il y a aussi, au dernier niveau, les maisons, les maisonnées, parce qu'il y a des cultes de la maison aussi. Et c'est en qualité de citoyen, de despote, de chef d'une maison que Léocrate détient de tels hiéras. Et il les emmène avec lui. Il les soustrait donc à sa propre cité, lui enlevant du divin, si vous voulez, si on parlait plus et moins. Hein, il enlève des protections divines en les emmenant, puis ensuite en les transportant dans la cité de Mégare qui est à côté. Donc c'est un traître, tout simplement. Hein. C'est la traîtrise pure et simple. C'est-à-dire que, si vous voulez, Athènes est affectée d'un signe moins et Mégare, où il va habiter ensuite, du signe plus. Parce qu'ils ont perdu du sacré et l'autre a gagné le sacré que lui a emporté avec ses valoches. C'est comme ça. Alors, on appelle ça aussi les théoi patroioi, c'est-à-dire les dieux ancestraux, si vous voulez. Ces dieux ancestraux forment l'armature de la protection de la cité dans leur ensemble. En transférant les siens à l'étranger, c'est comme si c'était de l'algèbre. Hein. Il enlève à sa propre cité et il ajoute du bien divin, bien sûr, mais du bien quand même à la cité voisine. Passons à une autre façon de voir les choses. On va changer d'endroit et examiner ces mêmes hiéras dans une île, qui est proche de la côte asiatique, hein, de l'Asie mineure, c'est l'île de Chios. Dans l'île de Chios existe un groupe humain particulier. Alors on peut lui donner n'importe quel nom, d'ailleurs je m'en fiche un peu. Ils s'appellent eux-mêmes les Clitides. Et quand vous voyez un nom en ide comme ça, c'est souvent c'est un groupement qui est souvent un groupement cultuel. Bien, je ne vais pas vous lire ça, j'ai beaucoup de temps perdu, donc je ne vais pas vous lire. Simplement mis en rouge les endroits qui m'intéressaient le plus. Et à une date inconnue, donc, les Clitides en question ont changé certains règlements de leur association religieuse. Ils ont décidé la construction d'une sainte maison commune. Le texte en question est un décret d'eux-mêmes prévoyant cette construction et le transfert ensuite des choses saintes et sacrées, vous avez compris que ça s'appelle les hieras maintenant, hein, de les transférer ces choses-là de leur propre maison individuelle vers une maison commune où on rassemblerait l'ensemble des saintetés. Hein, c'est ça l'idée, c'est ce que raconte cette histoire. Si j'assimile ces maisons particulières à celles de Léocrate, alors je dois avoir ici, là, de quelle façon ici, les hierakoina, qui viennent des idiotikon, des maisons particulières, vers une koinos oikos, c'est-à-dire un établissement commun à tous, qui recevrait l'ensemble des choses. Bien. Ces histoires ne sont concevables, à mon avis, parce qu'il y en a d'autres des histoires comme ça. Parce que ces saintetés patrimoniales sont des objets. On ne peut pas concevoir cette histoire du transfert de ces saintetés, je simplifie tout, hein, de ces saintetés dans une maison qui recueillerait toutes les saintetés pour les accueillir, sans que, évidemment, ces saintetés soient des objets dont on hérite, qu'on emporte en bateau, comme l'autre tout à l'heure, là, qui est parti d'Athènes, les a emmenés d'abord à Rhodes, puis les a ramenés. Hein. Ce sont des objets qu'on transfère ensuite dans une maison commune. C'est le cas ici. Mais on hérite, on l'emporte en bateau, vous voyez, mais qu'on laisse dans la maison du père aussi. Hein. En quoi consiste-t-elle? Commentant un jour cette inscription, un historien que j'admire, qui s'appelait M. Burkert, me suggéra de penser que ces objets-là, en question, ceux-là, là, des Clitides, là, pouvaient très bien être des statuettes suffisamment différentes pour que les lignées qui possédaient préalablement ces statuettes les reconnaissent une fois que ces statuettes auraient été entreposées, si vous voulez, dans une maison commune où toutes les statuettes, hein, il y a l'idée d'un regroupement des puissances surnaturelles, si on peut dire. Bah, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est indémontrable, bien entendu, parce qu'on n'a pas le détail de ces choses-là. Il faut que je me dépêche beaucoup, hein. Alors, l'apparition de choses comme cela, là, au rang de divinité, déceler la présence du sacré dans un paysage, dans des pierres, dans des arbres. On va maintenant aller à la rencontre d'exemples, c'est plutôt que de rester dans la théorie, de quelques exemples, quelques-uns quand même, de transfert de matière à divinité et de divinité à matière. Vous avez remarqué que j'ai pratiquement jamais prononcé le nom de quelque dieu que ce soit dans un polythéisme. C'est qu'effectivement, il y a, mais c'est pour ça que j'ai absolument tenu à vous parler de ça ce soir. S'il y a tout un pan, ce que pour appeler la religiosité, non, les croyances, non plus, si, un peu quand même, tout un pan dans la conception du saint et du sacré qui se trouve en dehors, presque en dehors du polythéisme grec, puisque c'est lui, hein, qui est spécifique. Et ce que je vais voir maintenant, vous rencontrerez des exemples précis maintenant, ce ne sera plus des généralités, mais des exemples précis où vous remarquez que l'absence de nom de Dieu, tout à l'heure on a vu Zeus, oui, mais c'est dans un récit de l'Odyssée ou je ne sais plus. Alors je vais vous prendre d'abord un premier exemple. Et il suffit de le lire là pour voir, hein. Et telle fut l'affection dont Démonax. Alors, sachez que ce Démonax,
pouvez chercher dans les dictionnaires, les encyclopédies, tout ce que vous voulez, vous ne le trouverez pas. C'est quelque chose d'assez étonnant. Il apparaît ici comme un type extrêmement célèbre à l'époque du texte. Et puis, en réalité, on a beaucoup de peine. S'il y a dans un lexique, justement, son nom. Et enfin, je prends ça comme ça. Telle fut l'affection dont il était l'objet de la part des Athéniens et de l'ensemble des Grecs, que les magistrats se levaient pour lui céder la place, tout le monde faisait silence. Les Athéniens lui firent des funérailles publiques magnifiques et portèrent longtemps son deuil. On saluait en se prosternant le siège de pierre sur lequel il avait coutume de se reposer. Les philosophes se saluaient toujours sur des fauteuils de pierre, classique. Hein? Quand il était fatigué, on le couronnait. On couronnait ce siège. Hein? On le couronnait en son honneur, considérant la pierre où il s'asseyait comme sacrée. Bien. Timéo, c'est le verbe qui est utilisé ici, là, à la fin de la ligne, là, timène. Vous voyez là-bas. Timéo est un verbe assez banal dans ce contexte-là, pour des rituels destinés aux dieux, aux héros. Toutefois, à la différence de la lance dont je vais parler après, une halbarde, si vous voulez. À la différence de la lance de tout à l'heure, point de sacrifice ici, point de prêtre attaché au culte de ce siège où il s'asseyait, mais qui est considéré quand même comme hieron. C'est le même mot depuis le début. Et ça veut dire la même chose théoriquement. C'est-à-dire que c'est sacré. C'est une pierre sacrée. C'est donc le niveau le plus bas de la hiérarchie des honneurs possibles ici. On va aller très vite à la suite. Pour vous parler d'une lance maintenant. Vous voyez que je me promène dans des objets. Parmi les dieux que les Chéronéens, la cité de Chéronée, qui est au nord d'Athènes, hein, vénère au plus haut. C'est pas moi qui le dis. C'est Pausanias. Le sceptre qu'Héphaïstos a fait pour Zeus, selon Homère, Hermès le reçut de Zeus, l'a donné à Pélops et Agamemnon le reçut de Thieste. Ils, les Chéronéens, vénèrent ce sceptre, l'appelant la lance, j'ai mis une majuscule pour que... Hein, l'appelant la lance, ce qui est en lui le plus d'origine divine est clairement illustré par la renommée qu'il a apportée aux Chéronéens. On ne lui a pas construit de temple, mais je monte un peu à chaque fois dans la hiérarchie, hein. On ne lui a pas construit de temple, son prêtre, il a néanmoins un prêtre, le garde durant un an dans sa maison, des sacrifices lui sont offerts chaque jour, et à son côté se trouve une table, trapeza. C'est normal, hein, c'est l'habitude du sacrifice grec. Il y a une table, hein, il y a des objets, il y a des gâteaux, du miel, des fruits, couvertes de viande et de plats de toute espèce. Eh bien ce dieu-là, si vous voulez, ce dieu avec des demi-honneurs, pardonnez-moi, hein, il apparaît là d'un seul coup comme étant le plus important de la cité. Bon, alors on pourrait discuter sur Théotéron et ce qui est en lui le plus d'origine divine. Théotéros, là, comment vous dire? Au temps de Pausanias, l'écrivain ici en question, ce mot s'utilise par exemple pour les empereurs divinisés. Ça s'emploie pour les empereurs. Je préférerais, moi, pour ici, un autre sens. Bien que Pausanias vive, évidemment, à l'époque des empereurs divinisés. Ça, j'ai rien contre, bien sûr. C'est, l'autre sens, c'est que il est lié à ce que Pausanias vient de raconter, à savoir que cette lance a été façonnée par Héphaïstos, destinée à Zeus, passée par les mains de héros classés au top des tops, hein, tous, vous allez comprendre la liste, là. Elle est donc d'origine divine, et à mon avis, ça suffit pour la qualifier, pour qu'on puisse utiliser un adjectif comme Théotéros, qui est un superlatif. Quoi. Bien, on continue notre promenade. Alors, est-ce que on peut façonner, en quelque sorte, on peut examiner le passage du banal animal à sa sainteté, c'est-à-dire passer de la brebis d'un troupeau
à un animal tussimon, c'est-à-dire sacrifiable, et puis à la signification hieron, que je traduirai là toujours par sacré. Des théoriciens, il faut lire là pour ça, pour répondre à cette question, des gens qui ont théorisé, qui ont réfléchi sur cette catégorie. Bon, je crois que Plutarque est un des plus faciles à suivre. Il convient que le tussimon, c'est-à-dire la bête qu'on doit sacrifier, soit pur, donc c'est cataron, kataros c'est pur, hein, intact, asinès, c'est-à-dire pas blessé, pas taché, pas malade, pas, qui ne boite pas, de tout ce qui peut arriver, quoi. Donc, il faut qu'il soit tussimon, c'est-à-dire en qualité d'être tué, d'être sacrifié, puis consommé. Et pour la psyché, c'est-à-dire pour son âme, j'emploie volontairement ce mot pour vous frapper. Oui, et pour la psyché, parce que bon, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la version grecque, utilisent psyché pour âme. Hein. Et pour la psyché, comme pour le corps, non corrompu, c'est-à-dire n'ayant pas de taches, de blessures, de macules, etc. Il faut que l'agnelle blanche soit blanche. C'est ça, le pur et le parfait. Lucien, dans un tout petit traité sur les sacrifices, explique aussi la même chose. Les sacrifiants, ayant couronné la bête et examiné longtemps auparavant si elle était complète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas blessée, qu'elle n'est pas qu'il n'a pas de... etc. Afin de ne pas immoler une bête inutile, c'est-à-dire une bête qui ne plairait pas aux dieux, l'amène à l'autel et la met à mort sous les yeux des dieux. Il ne faut jamais retoucher les textes comme ça, parce qu'il y a des traits d'union qui apparaissent dans les textes. Pardonnez-moi, hein, évidemment, pour cela. Vous savez ou vous ne savez pas, l'animal, théoriquement, l'animal qui doit être sacrifié, doit s'auto-désigner. L'idéal, c'est que l'animal fasse des gestes ou ait un comportement qui le conduise de lui-même, hein, vers l'autel. Être à son heure, c'est un critère zoologique et esthétique. Il est le plus gros, le plus gras possible, nourri à part, protégé, élevé, chouchouté. Le gras plaît aux dieux, par l'odeur aussi. Vous savez qu'on met le gras sur les charbons ardents de l'autel. Il doit être beau. Et ce jour-là, on va le parer, on va l'enguirlander. C'est un petit qui convient. Vous le voyez sur les images, ça, qui sont enguirlandées, les bêtes qui vont vers l'autel. Elles doivent y aller d'elles-mêmes, d'ailleurs. Et si, on a vu refuser des bêtes qui ne voulaient pas y aller. Donc on en prend une autre. Hein. Et ce n'est pas un tussimon parfait. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Ce qui l'éloignerait du sacrifice, c'est une impureté. Qui ne soit pas agnos. Agnos, c'est saint, sacré, mais c'est surtout pur. Et qu'il soit blessé, qu'il soit taché, etc. Qui n'est ni plaie, ni morsure, qui ne doit pas avoir travaillé, qui a été élevé à part du troupeau. Tout ça, c'est la préparation de la bête idéale du sacrifice. C'est vrai de sa psyché comme de son corps, hein, de son âme, si vous voulez employer ce mot-là, moi je m'en fiche. La psyché, c'est un peu l'âme des chrétiens, donc on va dire psyché, hein, comme à son corps. C'est-à-dire que l'animal de sacrifice échappe de plus en plus, doit échapper, bien sûr, pas évident, de plus en plus à la banalité pour atteindre un état spécifique proche du divin, abandonnant sa spécificité, bovine, caprine, porcine, pour être dans un état sacré qui correspond à son nom, parce qu'il s'appelle un hieréion, il s'appelle un sacré. En quelque sorte, si je traduis mot à mot. Hein. Ce processus, c'est ce qu'on appelle, ça y est, je vais y arriver, je sens que je ne suis pas loin de la fin quand je dis ce mot-là. Ce processus, ça s'appelle une katiérosis. Alors, il y a le mot, il n'est pas au tableau, c'est dommage, je n'ai pas prévu de le faire. Dans ce mot-là, katiérosis est partagé en deux parties. Si vous avez d'abord une préposition, hein, qui est liée à un substantif, hieros. C'est toujours le même mot, depuis le début, hein, que j'emploie. Hieron, hieros, tout ça, hieréion, hieréion, ça veut dire saint, sacré, quoi. Hein? Et kata, ça veut dire qu'il est passé du côté, l'animal passe du côté du divin. Vous voyez ce que ça veut dire en gros, hein? Peut-être que je force un peu, mais bon, pour que vous suiviez, je préfère forcer un tout petit peu la dose. Mais c'est ça, la katiérosis. Hein? Ça veut dire transmué, si vous voulez, muté. Alors, il arrive qu'une portion de soi devienne une sainteté. Comme par exemple, dans ce que je vais vous citer maintenant, Hieros Oplakamos, qui, si je traduis, la boucle de cheveux, c'est ça. La boucle est sainte, et Hieros. C'est Dionysos qui parle. Deux textes d'abord. D'abord, Lucien, je dirais c'est un peu tardif, mais je m'en fiche. Qui dit, les garçons consacrent dans leur sanctuaire les prémices de leur barbe, on leur laisse croître les saintes boucles des jeunes filles, les saintes boucles, hieros, toujours même, le même mot hieros, hein, là, c'est hieros, hein, c'est toujours saint, sacré. Plokamous, c'est-à-dire les boucles. On laisse pousser aux jeunes filles les boucles dès leur naissance pour que le jour de leur mariage, c'est pas dit là, j'ajoute, elles coupent et elles aillent. Crâne rasé, on en voit sur certaines images, aille crâne rasé sur la couche matrimoniale. Crinagoras, que vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, c'est un petit poète de l'anthologie. Alors, hors de ce jour, nous offrons cette sainteté, c'est toujours le même mot, hein, hieros, hieros, ira, dans un certain. Certains langages. Bon. Mon parent, encore un verbe, a fait le vœu de consacrer, c'est-à-dire céder au divin, ce qui est pour les jeunes gens le premier printemps de leur joue, c'est-à-dire sa barbe, ses premières barbes, divinité, agréer cet hommage et guider Euclidès dès cet instant pour le mener de ce nouveau naissant jusqu'à l'âge des cheveux blancs. Eh bien, il s'agit toujours de la même chose, c'est l'offrande de cheveux. Et le plus bel exemple d'offrande de chevelure qu'on ait, on l'a dans les Bacchantes, dans la pièce d'Euripide, les Bacchantes, peintée et l'autorité, le roi, quoi, qui est fâché contre Dionysos, mais Dionysos n'est pas sous la forme Dionysos, mais il est comme un quidam, quoi. Et peintée est fâché contre Dionysos, et il le menace de lui couper d'abord cette gracieuse boucle, parce que la boucle que Dionysos a, c'est une boucle qu'il n'a jamais coupée, qu'il a gardée pour l'offrir, comme on l'a vu avant, à une divinité lors de son adolescence. Hein, c'est un rite de puberté, en réalité, ça. C'est assez commun. Et Dionysos lui répond, mais l'autre ne sait pas que c'est Dionysos qui lui parle. Il parle à un dieu, mais il ne sait pas que c'est un dieu. C'est marrant, ça, c'est intéressant. Et le dieu lui répond, cette boucle est sainte. Hieros, c'est le premier mot que vous avez là. Hein. Plokamos, c'est la boucle. Et il la nourrit pour le dieu. Tréphos, c'est le verbe tréphos. C'est la nourriture. Le fait qu'il ait nourri la boucle pour l'offrir un jour au dieu. On a là l'exemple de l'utilisation, si vous voulez, d'un rituel d'adolescence, mais ça peut être un rituel de mariage aussi, qui a une signification qui est entièrement religieuse, que moi je considère comme totalement religieuse, mais qui pour autant ne met rien en marche du panthéon divin. Oui, il y a aucun dieu là qui passe là. Il n'y a personne, quoi. Tout est senti en dehors de ce que j'appellerais, moi, la hiérarchie divine ou la totalité de l'Olympe. Il y a l'idée de nourriture, là, hein, que je n'ai pas le temps de développer. Parce que cette mèche, les adolescents, et les adolescentes aussi, d'ailleurs, mais pas seulement les mèches, les adolescentes étaient plutôt toute la chevelure, savent qu'elles vivent leur jeunesse en nourrissant, c'est le verbe qu'on emploie, hein, c'est pour ça que je le mets en italique, en nourrissant une partie ou la totalité de leurs cheveux pour qu'au moment de la puberté ou au moment du mariage, puberté c'est les garçons, et le mariage pour les filles, on offre la totalité de ce qu'on a préparé et que ce soit le plus beau possible, hein, pour l'offrir à la divinité. Mais cette offrande peut avoir lieu aussi ad libitum, je dirais, n'importe quoi dans la vie pour célébrer une guérison ou autre chose. On peut encore garder une mèche, la nourrir en quelque sorte, parce que c'est très faux le verbe, hein, très fein. pour la nourrir pour le sacrifice. Bon, ça, je vais sauter. J'ai pas le temps, donc je saute ça. Je saute. Ah oui. On peut, alors, ce que je saute, c'est quoi ? Je saute des choses, c'est-à-dire, pour dire un peu l'ensemble, j'essaye de vous faire sentir à quel point la présence de ce qu'on appelle le sacré est commune et habituelle et banale dans le fond et se trouve partout, dans tout objet, peut se trouver en tout cas, dans tout objet, dans toute circonstance aussi. Et c'est un peu ça ici, l'idée de la terre rendue sacrée. Je ne vais pas vous développer ça. Hein ? Et le verbe qu'on utilise, vous le voyez là en majuscule, le verbe qu'on utilise, c'est celui sur lequel je me suis arrêté tout à l'heure. C'est-à-dire un verbe dans lequel vous avez une première préposition, kata, kato, kat, c'est les trois premières lettres, et qui garde derrière le mot hieros, c'est-à-dire saint, sacré. Et c'est kata, ça veut dire qu'on fait passer un objet, ceci, cette table, n'importe quoi, dans le polythéisme, c'est possible, on les fait passer dans le statut du sacré. D'accord ? Et tout est fonction de ça, dans le fond. Dans tous les exemples, et les deux que j'ai sautés aussi, vous avez comme ça la notion que... Non, il n'y a pas, si vous voulez, que le polythéisme, quoi. Même si je pense profondément que ce n'est possible, ça, que dans un polythéisme. Mais il n'y a pas que la pluralité des dieux, si vous voulez, ou des héros, ou de tout ça. Il y a aussi la pluralité de la présence du sacré, du saint, un peu partout. Il suffit de l'y trouver, il suffit de le voir, en quelque sorte. Il suffit qu'on l'ait vérifié. Bien, je vais quand même faire une conclusion. Hein. Bon. Une telle analyse, je vais lire maintenant, parce que je vais beaucoup plus vite quand je lis. Si à mon avis, une telle analyse, celle que j'ai essayé de faire avec vous ce soir, qui m'a occupé beaucoup, hein, qui m'a turlupiné. Bon, je vais continuer. Si une telle analyse, ça ne se conclut pas. D'ailleurs, j'ai d'autres exemples à apporter, c'est jamais fini. Et souffre d'être partielle. Elle donne en revanche une occasion de rendre hommage au comparatisme en général. Et bien qu'on n'ait pas toujours eu de bonnes relations, je dois dire que le comparatisme exigeant de M. Marcel Détienne, je vais en parler un peu là. C'est pourquoi je vais mettre en parallèle l'œuvre. Vous avez senti que la catiérosis, là, ce mot de la fin, est un mot qui vous fait basculer du réel au sacré, au sacré pour ne pas dire au divin. Hein. Et cette catiérosis, là, dans l'idée d'une consécration, il n'y a pas de traduction possible en français. Mais on peut dire consécration, et peut-être rapprochée de la théologie catholique, ou chrétienne, plus exactement. Je vais vous dire pourquoi je pense ça, et pourquoi je conclue là-dessus. Consacré, de l'ancien français, consacré, du latin consacrare, qui peut signifier déifier, mais surtout, moi je préfère, pour nous ici, sanctifier, vouer à un Dieu, et surtout mettre à part, distinguer. Est-ce qu'il ne s'est pas agi de cela, dans le fond, dans ce processus mental que vivaient les Grecs, quand j'ai parlé tout à l'heure que certaines choses pouvaient se dire, sanctifier ou des choses comme ça, j'ai senti que c'était proche de ceci. Calvin, par exemple, christianisait ainsi le sens du verbe. Il disait « consacré convient pour l'action de convertir le pain et le vin en la propre substance de Jésus-Christ ». Convertir, c'était une des façons de le dire. Convertir les arbres et tout ça qui sont autour d'Antigone et d'Oedipe qui sont dans un certain paysage végétal en un lieu sacré. C'est-à-dire faire un saut qualitatif, hein, du présent, en quelque sorte, des choses concrètes. Bien, ça me plaît, ça. Quand il élève l'hostie, le prêtre, je parle d'une religion catholique ou protestante, hein, m'en fiche, c'est le christianisme, quoi. Quand il élève l'hostie, le prêtre convertit le pain et le vin en le corps du Christ en proclamant aux fidèles hoc est enim corpus meum, c'est-à-dire ceci en vérité est mon corps. Il le dit à la place du Dieu, évidemment, puisqu'on est dans un monothéisme, on ne peut pas avoir un dialogue, c'est pas possible. Ce rite s'appelle la consécration dans la liturgie catholique et protestante aussi d'ailleurs. Hein, c'est une consécration, regardez le mot, comment il est fait, hein, avec et sacré, maître avec le sacré. Comme on en a souvent croisé la procédure physique, je parlais de ce qui précède, et mentale, cela convertit la matière, c'est-à-dire pour les Grecs la physis, le physique si vous voulez, en une sainteté, ce qui est hieron, hieros, on n'a vu que ça depuis le début, hieros et hieron. Ce à quoi équivaut exactement ce que j'ai appelé la katierosis tout à l'heure. C'est ça que ça veut dire, le mot. Exactement. Rendre, passer dans la sphère du sacré. Viser un statut sacré. La liturgie, je vais vous parler de la liturgie catholique, qui date du Concile de Trente, hein, vers 1560. Ça a marqué pour toujours. Si je lis exactement, j'ai pris mes précautions, je ne vais pas me faire engueuler. Non, parce qu'on peut discuter des Grecs tant qu'on veut, mais quand on parle des choses comme ça, il faut être sûr de soi. Donc j'ai pris mes précautions. Et je suis allé dans les manuels des manuels, dans la liturgie, les liturgies catholiques du Concile de Trente, donc au sein de ce qu'on appelle l'anaphore, ce qui est la prière eucharistique. Après présentation des oblats, sous la forme de pain et de vin, c'est la première partie de la messe avec le fertoire, pour ceux qui savent. Hein. Une prière qui est, curieusement, j'ai découvert ça, qui est appelée épiclèse, est adressée au Père, lui demandant d'envoyer l'Esprit Saint, ou, bien, des fois, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est d'exercer sa propre puissance, le Père exerce sa propre puissance, et sa bénédiction sur le pain et le vin, afin que, par l'effet de cette force, que les Grecs appellent la dynamis, la puissance. Hein. Il se mue en le corps et le sang du Christ. C'est ça l'acte. Hein. J'ai pris mes sources. Ce transfert de puissance, si vous avez un peu le souvenir, puisque c'est récent, de ce que j'ai raconté, on en a rencontré plein, ce transfert de puissance. Le polythéisme exige ce transfert de puissance. Je ne sais plus où c'est marqué, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Sans père singulier, évidemment, il n'y a pas de père singulier. Il y a un transfert de puissance, je dirais presque anonyme, ou alors de temps en temps, il y a un transfert de puissance par Artemis, par Athéna, par Zeus, ou comme on voudra. Quand on lit les pères de l'Église, je les ai là, hein, je vais aller très vite, parce que ce pain et ce vin ont été, selon l'expression ancienne, eucharistiés. C'est très intéressant, parce que eucharisté, si vous prenez l'étymologie du mot grec, c'est... On est en plein on peut douter de ce que ça peut vouloir dire. Nous appelons cette nourriture Eucharistie. Le prêtre, figure du Christ, prononce ses paroles, mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Effectivement, le prêtre parle, mais ce n'est pas lui qui opère la transformation. Ce qu'on appelle les espèces, l'eau, et le vin et le pain. Ceci est mon corps, cette parole transforme les choses offertes. La bénédiction à consacrer, le pain et le vin, car la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature, parce que par la bénédiction, la nature elle-même se trouve, on va dire, même pas changée, transmuée, transformée, évidemment. C'est ça qui est le plus important dans l'affaire. Bénédiction, je vais employer les mots, j'ai bientôt fini. Hein. T'inquiète pas trop quand même. Si je rassemble tous ces mots-là, bénédiction, consécration, conversion, eucharistisation, ça s'emploie, figurez-vous, sanctification, mutation, déification, transformation. Vous voyez la difficulté qu'ont les langues, toutes les langues, à trouver le verbe qui exprime au plus près cette mutation des espèces qu'on a trouvée chez les Grecs de diverses façons, très diverses façons, si vous voulez, mais aussi dans ce qu'on appelle le sacrifice eucharistique. La mutation des espèces, comme on dit, en un corps, si ce n'est mystique, au moins hieron, saint, sacré, tout en restant bien concret, réel. Qu'on me pardonne, mais la katierosis que j'ai parcourue plusieurs fois dit ça clairement. Le comparatisme que je viens de mener a ceci de précieux qu'il met en lumière une différence fondamentale. Si le grec lambda jouit à tout instant de pouvoir transformer un petit cochon en un hiéréion, c'est-à-dire en un sacré, proche des dieux, de consacrer sa boucle à Apollon, le prêtre est seul habilité, le prêtre, je veux dire chrétien, est seul habilité à faire opérer la transformation du pain et du vin. C'est radicalement différent dans les conséquences aussi. Les théologiens répondent, c'est parce qu'il a lui-même reçu une consécration, lui, le prêtre, une bénédiction, qu'il l'a lui-même transformée. En même temps que certains hommes devenaient des représentants sur terre de la toute puissance divine, la proximité polythéiste avec la matière, qui s'exprimait par la possibilité pour chacun d'immobiliser des vertus de puissance, a disparu. Sur ces paroles un peu désenchantées, mais qui ont au moins le mérite de nous avoir conduits à proximité de l'apéro, je vous remercie beaucoup de votre attention, c'était vraiment très long. Voilà, j'ai fini. Voilà, le feu roulant des questions.
Je vous propose qu'on échange quelques minutes, réponses courtes.
Monsieur, c'est monsieur, c'est pas madame, c'est monsieur.
Francis Ebeke, je suis doctorant à l'Université de Poitiers, laboratoire Uralité. Je travaille sur les questions des personnes âgées en EHPAD, donc rien à voir avec la communication de ce soir.
Il y a bien quelques prêtres anciens, mais bon.
Voilà. Donc je voudrais donc, ma question est axée vers la finalité de votre propos, la consécration du prêtre. Et la consécration du rituel lui-même, qu'est l'Eucharistie.
Ouais.
Aujourd'hui, le débat est houleux,
ouais,
pas seulement en France, mais dans le monde entier,
ouais,
sur l'être et l'identité du prêtre. Et quand on sait que quand on est consacré, in persona Christi, la personne humaine, même celle de Jésus-Christ, y est, y était.
Ouais.
Et aujourd'hui, donc, l'opinion publique ne ressentons pas cet aspect que vous venez de développer tout à l'heure, qu'est la consécration du prêtre. N'y a-t-il pas ici à repréciser l'articulation entre l'homme prêtre et l'homme tout court?
Entre le prêtre et l'homme?
Oui.
Dans quel... oui, c'est intéressant.
L'Église catholique, oui.
J'aimerais préciser, il s'agit du présent ou bien s'agit-il de l'Antiquité grecque? Ce n'est pas du tout, parce que la réponse serait totalement différente.
Oui, en fait, je suis en train de faire l'articulation en l'Antiquité grecque.
Oui.
En fait, tout ce qui a été, qui est encore aujourd'hui, ce qui était hier et oui, d'aujourd'hui.
Oui, oui, voilà. Alors, une chose importante, parce que malheureusement, on ne peut pas tout dire. Il faudrait que vous sachiez que les prêtrises, assez souvent, étaient à temps. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, par exemple, tout à l'heure, j'ai passé un texte, peut-être beaucoup trop vite, où on était prêtre un an. Et par conséquent, la question, dans ces cas-là, de, comment vous dire ça, de la conception même de la prêtrise est complètement modifiée par rapport à nos habitudes où on rentre dans la prêtrise et à moins de faire des conneries, on y est pour la vie. Et donc, on ne peut pas répondre de la même façon, hein. Pardonnez-moi, mais je suis un peu scrupuleux. Parce que si on mélange, si on prend tout en même temps, on fait une espèce de sauce et puis bon, on ne sait plus de quoi on parle. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que la prêtrise, presque dans tous les polythéismes, ceux que je connais en tout cas, et en particulier l'hellénique, la prêtrise est dévolue en fonction soit d'un tirage au sort. C'est assez rare, mais ça existe. Je pense bien d'ailleurs que celui dont on a parlé, j'ai cité un texte tout à l'heure, je pense que c'est tiré au sort ça. Celui qui l'a un an chez lui, après ça tourne, ça va chez un autre. Hein, et il y a une sorte d'égalité, bon, même si on peut s'en méfier de ces mots-là, il y a une sorte d'égalité du rapport au divin dans la cité grecque. Cette égalité se marque par le fait que les charges religieuses tournent. on est dans une famille, puis l'année prochaine, ce sera une autre famille. Néanmoins, il y a d'autres prêtrises qui sont viagères. Et à ce moment-là, c'est le génos, la lignée dans laquelle le sacerdoce a été dévolu, qui a été à un moment choisi d'une façon qu'on sait pas, qu'on connaît pas toujours, mais sans doute par le sort, la plupart du temps par le sort. Donc c'est très différent des religions dans lesquelles il y a un engagement personnel d'un individu. Tu sais bien, enfin, vous pardonnez-moi, vous savez bien que j'ai l'habitude de tutoyer les étudiants, et ça ne m'a jamais quitté, pardonnez-moi. Vous savez bien qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Oui, à propos de la dévolution des sacerdoces, dans la Grèce ancienne, soit c'est tiré au sort, soit c'est katagénos, c'est-à-dire c'est dans la lignée. Et dans un certain sens, dans le premier sens plutôt, c'est la divinité qui choisit qui sera prêtre. Donc, d'une certaine façon, c'est Dieu, quoi. C'est les dieux, c'est le sort, donc c'est tombé comme ça. D'un autre côté, c'est un privilège. C'est un privilège dont on dit qu'il vient du passé. Tout à l'heure, j'avais une liste là où ça démarrait avec Agamemnon, puis ça descendait aux autres, puis aux autres, puis aux autres, puis aux autres. En réalité, c'est pour dire, c'est de tout temps. C'est pour dire, c'est... Je ne sais plus où on en était d'ailleurs. Pardonnez-moi, monsieur, je n'ai pas répondu. Mais il faut dire que les conditions dans lesquelles ces choses-là s'appliquent sont tellement loin de nos conceptions qui sont issues des monothéismes, hein, sont tellement éloignées qu'il est difficile assez souvent de pouvoir répondre à une question dont on devine qu'elle a pour origine des raisons, par exemple, là, contemporaine, je l'ai senti. Hein. Et puis, de parler d'il y a 3000 ans, de la même façon. Moi, je ne peux pas. Je suis historien, je me place en 500 avant. Si je mélange avec le Moyen-Âge ou la Renaissance, ou bien, je ne sais pas quoi, les Ming, je sais que j'ai faux, parce que je triche. Donc, pardonnez-moi. Je ne peux pas répondre.
Oui, bonjour. J'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'il y a un glissement, finalement, entre la notion de Dieu qui est assez abstraite, peut-être même pour les Grecs, et des objets qui sont quelque chose qu'on pourrait... On pourrait presque parler d'objets transitionnels, si je puis me permettre. Je ne sais pas si c'est une notion qui a du sens. Mais, y a besoin finalement d'avoir ces objets concrets pour approcher la divinité sans lesquels finalement on a quelque chose qui reste totalement dans l'abstraction et qui n'est pas du tout dans les pratiques telles qu'on peut les lire dans les textes anciens.
J'aime bien. Non, mais moi, je suis très embêté parce que j'ai toujours enseigné les dieux. Hein. C'est vachement facile. On a les inscriptions, on tue une bête et puis il sera favorable. Et puis c'est telle bête parce que c'est tel jour et parce qu'elle a telle couleur. Et voilà. Bon, puis, assez souvent parce qu'on l'a sous la main. Il faut le dire aussi. Bon. Mais enfin, bon. Et le fait qu'en réalité, ce que j'appellerais cet idiot, le mot n'a pas de sens ici, mais vous allez comprendre quand même, je pense. La sainteté, en réalité, elle est partout. On s'aperçoit sans arrêt qu'il y a de la sainteté ailleurs que dans, appelons ça les dieux. Mais aussi, il y a les héros. J'en ai pas parlé. Il y a les héros aussi. Hein. Ils ont aussi des sacrifices. Bon, j'en parle pas. Donc, il y a de la sainteté partout. Elle se manifeste ou pas, ou les hommes la font se manifester ou non, et ils vivent avec tout ça. Et c'est tout ce que je peux dire. Et je pense que malheureusement, on travaille trop sur les dieux. Moi-même, je l'ai trop fait, j'en ai marre. Non, mais les dieux, j'en ai marre. C'est vrai. Pardonnez, j'ai pas fini. Encore un mot. Mais on s'aperçoit, quand on regarde les choses à l'envers, je dirais presque par dessous, en regardant par le plus bas, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple que j'ai pris là, ce philosophe que personne ne connaît et qui a un siège qui est saint. Et puis c'est tout ce qu'on sait, mais c'est saint. Hein, bon, sa chevelure est sainte aussi, on dit que la chevelure est sainte. Et il faut en rendre compte, pour, si on veut parler de religion avec un grand R, qui pourrait couvrir l'ensemble des pratiques et des croyances. Ça, c'est mon testament. Il faudrait trouver un autre mot, mais je crois. Oui, monsieur.
C'est à propos du stick. Parce que les dieux, il faut qu'ils prennent appui sur le stick pour leur serment, quoi.
Oui. Oui. Mais parce que pour prêter serment, il faut vraiment prêter serment par quelque chose qui est supérieur à soi. Oui. Donc, ce qui est ultime, en quelque sorte, c'est l'image de l'ultime, ça, le Styx.
C'est quoi, en fin de compte, le Styx ?
C'est-à-dire qu'il y a des enfers, il y a une croyance sur l'existence des enfers. Alors méfiez-vous parce que le mot enfer est chrétien et que l'enfer, c'est... Mais non, c'est pas pareil. Les chrétiens ont pris le mot grec, mais... Enfin, ou le concept, si on peut dire, presque. Mais c'est pas du tout le même contenu. Donc, ils ont une représentation de l'au-delà, appelons ça comme ça, hein, l'au-delà, dans lequel il y a des régions, il y a des plaines, il y a des montagnes, et puis il y a un fleuve qui s'appelle le Styx. Et cette eau du Styx est... En quelque sorte, dans les serments grecs, par exemple, en quelque sorte, le dernier recours, quoi. Il n'y a pas au-dessus. On va se demander s'il n'y a pas au-dessus des dieux, qui peuvent des fois mourir, on ne sait jamais. Dionysos est bien mort.
Parce que c'est plus fondamental que les dieux, en fin de compte.
Parce qu'il faut... Non, mais c'est aussi... Il y a une autre raison, à mon avis, il y a une raison presque mécanique et automatique. C'est-à-dire que... Si on veut, c'est surtout dans la fiction, je le sais bien, mais dans la représentation, dans la mythologie, si on veut que les dieux se jurent des choses entre eux, il faut bien qu'ils jurent par quelque chose qui soit au-dessus, qu'il y ait quelqu'un qui les surveille, quelqu'un ou quelque chose qui les surveille. Pour vous, les monothéistes, je veux dire, enfin, pour nous, je veux bien me mettre dedans, mettons, mais pour aller plus vite. Mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui surveille. L'application du serment, qui est des punitions. Et donc, il faut quelque chose au-dessus. Et quand c'est les dieux qui jurent entre eux, il faut trouver un machin. Alors, le Styx, il jure par personne, évidemment. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pas possible.
Bon, étant donné qu'il n'y a plus rien au-dessus du Styx, je propose qu'on s'arrête là avec le temps qui file.
C'est pas débordé, non ?
Bah, c'est pile poil. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci beaucoup.
Merci. Vous allez boire un coup, moi.